Magnifique. Ou Rachid, présent, donc à ma droite.
Alaykoum salam.
Donc il nous fera, Inch'Allah, un petit rappel sur les obligations des uns des autres quant à Ramadan et bientôt à la fin de Ramadan, notamment sur Zakat al-Fitr. Inch'Allah. D'ailleurs, on peut enchaîner puis on parle directement.
Non, Rachid. C'est surtout ce que je vais faire, je ne me prends pas le nom d'être un savant.
Non,
des rappels par rapport à ce que la Mousqab Bouakar fait. D'accord. Pour Zakat al-Fitr, pour la fête de l'Aïd, et un peu ce qu'il y a eu cette semaine sur ce qu'il y a eu sur la mosquée Abou Bakr, en sachant qu'on est toujours à la recherche, donc primordialement dedans, hein, toujours pour le même souci, l'acquisition de la maison numéro 1 qui n'est pas tout à fait arrivée à terme au niveau argent, donc financièrement, donc nous avons lancé les flyers un peu à droite à gauche, on a même des frères des trois ponts qu'ils ont reçus dans la boîte aux lettres, donc ça veut dire que les frères de la mosquée Abou Bakr ont fait déjà leur boulot sur les trois ponts, on a déjà touché le nez. Je pense qu'il reste quelques quartiers à faire en distribution de flyers, mais ça c'est notre idée première. Ensuite on a aussi pour ce qui est de la fête de l'Aïd, qu'on prépare gentiment, si c'est vendredi, Inch'Allah, donc vendredi prochain, l'imam l'a déjà annoncé au Jumu'ah d'aujourd'hui en disant que la prière commencerait à 8h30. Mm-hmm. Donc entre 8h30 et 9h15 pour le retardataire, pardon. Si c'est samedi, ben, au Jumu'ah, il va nous dire c'est à quelle heure, donc vendredi prochain, il nous retranscrira un peu l'heure de Saint-Laïd. Mais en sachant aussi que Laylatul Qadr, dans Laylatul Qadr qui a lieu lundi, je crois dans la nuit de lundi à mardi, la mosquée Abou Bakr laisse les portes ouvertes, donc gérées par des responsables, donc on passera la nuit là-bas, pour celui qui a envie de venir de se recueillir, lire le Coran, faire de la khatin, qiyam al-layl et tout. Donc nous mettons à disposition des fidèles roubaisiens la mosquée, vraiment pour un point de recueil, en sachant que chaque année que ça a été fait, les frères ramènent quelque chose à manger, comme ça ils font le sahar directement à la mosquée. Mm-hmm. Donc comme ça le lendemain de matin, ben, les personnes ils retournent soit au travail ou ils rentrent chez eux. Mais en tout cas, nous, ce qu'on fait, c'est on accueille et on ouvre les portes. Et pour faire un petit récap de ce qui s'est passé du mois aujourd'hui, Faisal était présent parce qu'il est un des acteurs maintenant principal de la mosquée, car Faisal nous honore de sa présence sur la récitation du Coran, même s'il tire la tête, mais on a des retours très positifs des fidèles de Mosquée Abou Bakr. C'est un plaisir de l'écouter. C'est un plaisir qu'on a parce que, étant un peu fan de Abdel Bassad Abdel Samad, donc c'est une imitation quasi. Donc on a.
Il faut savoir, Rachid, que Abdel Bassad est inimitable. Celui qui doit l'imiter n'est pas encore né, je ne sais pas s'il va naître.
Mais en tout cas, tu me donnes les mêmes frissons qu'on a. Donc ce qu'il y a, c'est que, à titre d'exemple, j'ai un fidèle qui m'a dit tout à l'heure, il m'a dit, en écoutant le Coran plus l'Aden, j'ai eu une larme. Donc quand même, c'est que ça touche, donc le retour est très positif. Mm-hmm. En parlant même de ton collègue qui est Ali, qui maintenant est le traducteur officiel aussi de la mosquée, mm-hmm. donc on vous a un peu pris de passer les fermes pour vous trouver des petites hassanettes en plus dans vos actions.
Exactement.
Donc on a un retour très très positif, on a certaines personnes qui sont venues nous dire, enfin, nous avons passé un vrai du mois. Ça dit ce que ça veut dire. Ça veut pas dire que les êtres du moins n'étaient pas bons en fédère, c'est qu'on monte en puissance. Donc on commence à devenir un truc qui devient aussi pour les francophones. Donc il y a beaucoup de choses maintenant en français. Donc je suis très très content d'être porteur de ce projet-là et que la mosquée Abou Bakr est porteur de ce projet-là, en espérant faire de meilleur. Donc les idées sont toujours les bienvenues. Nous sommes à l'écoute, nous prenons du recul, et pour le bien-être de la mosquée fédère et pour l'intérêt des musulmans, nous analysons et prenons des décisions. À ce jour, toutes les décisions ont été dans le sens où il y a une communauté francophone. Donc chez nous à Abou Bakr, nous ne dénigrons pas la communauté francophone. Moi-même qui ne comprends pas l'arabe à 100%, c'est un bienfait pour moi. Donc c'était hyper hyper important, et ce que je voulais souligner, donc grâce à Pastel FM ou à cause de Pastel FM, comme vous voulez, on peut récupérer des personnes qui sont compétentes et les mettre à disposition de la communauté musulmane de Roubaix.
Je voulais rajouter, Abdelrachid, la mosquée d'Abou Bakr est l'une des seules mosquées qui a le souci de mettre en avant la potentialité des frères qui est ici sur Roubaix. Inch'Allah, pour ça, c'est...
Je tiens à souligner que pour ça, on a un président qui est Inch'Allah, qui est Abdelmajid, tout le monde le connaît. Hein, c'est une personne qui vit sa vie pour la mosquée, c'est-à-dire qu'il s'occupe du hajj, il s'occupe de l'entretien de la mosquée, des finances, il essaye de voir qu'est-ce qui ne va pas, et ainsi de suite. Et quand il a constitué son bureau, il l'a constitué de jeunes. Donc il a regardé la compétence. Et dans les compétences, c'est que les gens aussi disent rendons la compétence à qui ça veut dire si je connais une personne qui est un maçon professionnel, c'est le maçon professionnel qui viendra faire le mur. Donc à FEDERB, on a privilégié, on arrête le côté familial, le côté, on cherche le côté vraiment l'intérêt de la mosquée et l'intérêt de la communauté musulmane. Et aujourd'hui, ça commence à ressortir, la mosquée elle commence à resplendir, elle commence à s'ouvrir, et on travaille surtout aussi avec les partenaires extérieurs, que ce soit la condition publique, que ce soit la solidarité, que ce soit l'Espérance, ainsi de suite. De telle manière qu'aujourd'hui, dans la mosquée FEDERB, on veut que ce soit un acteur principal, et on jalouse même, même si Samir il y a la technique, on jalouse l'énergie. Qu'il a l'énergie, vous savez très bien que le mardi et le samedi ils font un repas. Donc la mosquée finance à sa manière, c'est-à-dire qu'on a fait des appels aux dons pour aider à payer l'énergie, pour acheter des moutons, ainsi de suite. Donc, mais on est un peu jaloux que l'idée n'est pas venue de la mosquée. Elle est venue d'une ascension jaloux, dans le bon sens du terme, c'est une jalousie qui est bonne, mais le quartier du Pile bouge. Et je pense que la mosquée aussi, en tant qu'acteur principal et primordial de la vie sociale dans le quartier, la mosquée doit avoir une présence qui est naturelle, pas s'imposer, mais se fondre dans tout ce qui est lié même aux jeunes avec qui je parle du PIL. Aujourd'hui, je suis fier d'être un PILois, parce que c'est un quartier qui commence à bouger, qui prend au niveau solidarité, au niveau hospitalité, ça prend une puissance, même si elle n'est pas religieuse. C'est hyper important, cette solidarité, la peur de l'inconnu. Et cette peur de l'inconnu, maintenant les gens ils vont à la recherche de l'inconnu. Les Français, du moins, parce que moi aussi je suis français, donc je ne sais pas comment je vais dire ça, les personnes qui ne prient pas ont moins peur de la mosquée parce que la mosquée ouvre ses portes. Donc aujourd'hui on n'a plus l'image négative, on n'est pas considéré comme un Afghan ou ce qu'ils ont regardé juste la veille aux infos, les Irakiens et ainsi de suite. Et c'est vrai que quand ils sortent de chez eux, ils restent sur cette image-là, et quand ils sortent, ils voient juste une mosquée en face. Effectivement, et vous savez très bien que la mosquée est remplie, je remercie Allah, elle est remplie de la prière du sabah jusqu'à l'Aïcha. Donc les gens qui voient ça, ils sont toujours. Et quand nous on ouvre les portes en disant venez voir un peu, écoutez-nous, on se vend en gros, et ben les gens ils ont notre appréciation. C'est-à-dire maintenant qu'ils sortent de chez eux, ce qui a été dit par les médias, c'est fini.
Donc la stigmatisation elle a été cassée, l'image que les gens véhiculaient de l'islam,
tout à fait,
en ouvrant les portes des mosquées,
tout à fait. Mais il y a du boulot. Ça veut pas dire que effectivement la stigmatisation c'est un combat long, c'est à long terme. On peut pas dire au bout de deux années de journée de patrimoine qu'on a dit la mosquée FEDERB ça y est elle est ouverte, on a encore du boulot. C'est à dire que sur cette base là on s'arrête pas, on se dit on a d'autres projets. On a un projet aussi qui est de mettre la mosquée sur internet, donc faire un site, peut-être un site avec le dars de l'imam, les hadiths du prophète sallam, peut-être Faisal en récitation de Coran et ainsi de suite. On a beaucoup de projet, même si facile, il n'y a pas l'air d'être au courant, mais c'est une info en direct. Donc on va créer ce toit, mais beaucoup en français.
Bien sûr,
ce sera beaucoup du français, pas beaucoup en arabe.
Mais ton rôle au sein de l'association de la mosquée, c'est quoi?
Je suis vice-président, mais c'est un titre qui est honorifique. Le seul titre qu'on garde vraiment à la mosquée, c'est le président, c'est Abdelmajid. Ensuite, nous les jeunes, on a pris le titre de vice-président, trésorier, mais en sachant qu'on touche un peu à tout. Ça veut dire que, en gros, mon boulot à la mosquée, c'est tout ce qui touche au relationnel de la mosquée. Donc moi, c'est la com, c'est tout ce qui est négociation avec la ville, tout ce qui est les jeunes du patrimoine, je me gère, en sachant que je passe le relais. Mais avoir une fonction bien définie à la mosquée, demain, je peux me trouver en train de laver la salle d'ambition sans aucun problème. On n'a pas de titre vraiment honorifique. C'est vraiment des termes, disons, pour la loi 1901, lui, vice-président, en sachant que j'assume pleinement quand le président n'est pas là, quand il va en vacances ou quand il est pas sur Roubaix, j'assume pleinement mon rôle de vice-président, en sachant que le respect est à la mosquée. Et c'est généralement quand le président il part, le gros maximum c'est un mois. Donc on n'a jamais vu une mosquée s'effondrer au bout d'un mois.
Alhamdulillah. Peut-être autre chose à rappeler. Enfin,
c'est l'ouverture de la mosquée pendant Laylatul Qadr, qui est important. Ça veut dire quand même on met des humains de force, mais en sachant que les forces on les met, mais ils vont participer à la mosquée, en sachant que surtout ce moment de recueillement. Et c'est là où, même là, vous cadrez, sachez que c'est vrai que la Sassam s'est retiré les 10 derniers jours du mois du Ramadan, qu'il a dit chercher entre le 21, le 23, le 25, le 27 et le 29. Ceci dit, aujourd'hui,
On est toujours dans la culture du 27. Aujourd'hui, on n'a pas encore cassé ce rythme de 27, mais Inch'Allah, en espérant que peut-être que l'année prochaine, on ouvrira les portes le matin, le 23, le 25, le 27 et le 29. Parce que c'est vrai que bon, les puritains, si je peux dire ça, les ceux qui sont vraiment sur la sunna du Prophète, même peuvent rétorquer, et ce qui est légitime, attends, Rachid ouvre les portes le 27, mais ça peut être le 21 aussi, ça peut être le 23, le 25. Mais nous, aujourd'hui, on ouvre le 27, en sachant que c'est aussi un côté aussi de muhabba, de fraternité, de. Généralement, c'est ceux qui se connaissent qui viennent. Mais aujourd'hui, la porte est ouverte à tout le monde. On voudrait qu'effectivement, même les non-pratiquants, ils viennent. Ça ne me dérange pas, moi.
Jusqu'au fajr.
Oui, jusqu'au fajr, c'est sûr. Par contre, les heures d'ouverture, étant donné comme c'est pendant Ramadan, donc les frères rentrent pour manger, donc pour couper le Ramadan. Donc, on va faire ça en sorte de roulement. Mais bon, entre le Maghrib et l'Aïcha, c'est pas fermé. Donc, généralement, après l'Aïcha, jusqu'au Tarawih. Ça continuera, mais aujourd'hui il faut qu'on trouve une sorte de roulement, à savoir des frères, bon, et généralement nous ce qu'on demande c'est qu'un responsable de la mosquée reste avec les frères qui sont dans la mosquée en train de prier, Inch'Allah.
Barakallahu fik pour ces informations et ces rappels. Donc on rappelle le principe aujourd'hui de l'émission, il y aura beaucoup de lois gagnées, notamment des livres, tu peux nous rappeler un peu les livres sur la vie du prophète, c'est au-delà des caricatures, hein, donc il y aura quelques livres à gagner, plus
les accords de Dieu, je pense,
de Hani Ramadan, Barakallahu fik. On a Hassan qui nous rejoint, qui est là. On va s'opérer une petite pause, en sachant que Omar Lassar, Inch'Allah, sera sur le plateau après. Donc, reste à l'antenne. Faisal nous concocte quelques questions. Vous êtes près de votre téléphone, 03 20 73 59 00. Vous appelez au plus vite et Inch'Allah, on prendra pour les gagnants, en tout cas, leurs coordonnées. Et nous leur enverrons, Inch'Allah, ce lot. Donc, petite pause, on se retrouve dans 5 ans. On dit, Zakat al-Fitr, tu en as parlé ou pas?
Oui, il y avait du moins, donc l'imam, je pense, c'est un peu.
Je ne suis pas un bon cadre.
Dans les détails.
Ça va être noté.
Il est évident parce que ce qu'il faut faire bien, la distinction entre Zakat al-Fitr et Zakat al-Mal, les Zakat al-Mal de tout ce que vous pouvez donner à la mosquée. Donc il y en a qui ont une peur en disant Zakat al-Fitr à la mosquée, ils pensent que ça rentre dans les caisses de la mosquée. Je confirme, il y a une caisse qui est bien à part Zakat al-Fitr, donc avec des enveloppes bien préparées, donc déjà avec les noms des personnes qui n'ont pas d'argent. Donc on a déjà un listing, on a aussi les personnes qui viennent avec leur propre enveloppe. On n'est pas là pour regarder à qui on donne, on ne cherche pas la pièce d'identité, ainsi de suite. On prend, pour nous, c'est à nécessité. Donc on prend. Ça veut dire qu'on redistribue. Ça veut dire dès que la personne nous donne 5 euros, il dit voilà, ça c'est pour Zakat al-Fitr. Donc nous on le met bien à part, c'est pas mélangé. Le second point, l'imam l'a bien rappelé, Zakat al-Fitr est accepté jusque avant la prière de l'Aïd. Donc il y a certains savants qui disent même le premier jour du Ramadan jusque Zakat al-Fitr. Ça veut dire que on ne doit pas attendre le 27e jour, comme certains qui disent à partir du 27 on commence à donner Zakat al-Fitr, alors qu'on peut la donner, comme Hassan l'avait dit lors d'une émission, il avait dit à quoi ça sert, effectivement, il est préférable de la donner en début pour que justement les associations humanitaires puissent s'en servir. En sachant qu'effectivement, ils ont tous un quota d'argent qui réinjecte directement sur les associations. Mais ce qui est hyper important, c'est que Zakat al-Fitr doit être sorti avant ça.
Bien, faire bon usage.
C'est surtout important. Mais la mosquée aujourd'hui est aussi un partenaire en disant nous récompensons Zakat al-Fitr pour la redistribuer à des nécessités de la région. On a une personne d'Azbouk qui est venue ce matin, qui nous a donné son adresse et tout. On l'a pris, c'est pas parce qu'il est d'Azbouk. Donc, il y a nécessité, il restera à nécessité.
Ok, Barakallah, c'est très gentil. Donc, on va s'opérer une petite pause. Et on se retrouve dans 5 minutes, Inch'Allah, vous restez à l'antenne et il y aura des lots à gagner. De retour sur les ondes de Pastel FM, il est 20h58, donc bienvenue à nos auditeurs qui nous rejoignent maintenant, émission La Prophétie, hein, Pastel FM 99.4. Donc sur le plateau, Hassan qui vient de nous rejoindre, ainsi que Omar Lassar qui est recteur de la mosquée de l'île Sud, rue des Marquillés, mosquée El Iman. Et aujourd'hui, on va parler du lycée Averroès, donc le premier lycée musulman de France qui existe maintenant depuis plus de 3 ans, si je ne m'abuse. 5 ans. C'est pas grave, mais je m'étais référé simplement au niveau du bac qui a pu avoir lieu en juin, c'est bien ça, on voit les résultats. Voilà, ça, salam alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullah.
Qu'en est-il alors du lycée AVROS au niveau de. Première question que je poserai là, au bout de 5 ans, l'accréditation, est-ce qu'il faut encore du temps? Est-ce que vous tenez encore sur les dons? Enfin, il y a tellement de questions à poser par rapport au lycée.
Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je remercie encore une fois Pascal FM qui a suivi AVROS depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Pour ça, j'ai répliqué en disant 5 parce que, au lieu de 3, parce que l'année pour nous compte et compte énormément. Il y a une vraie raison de compter en 10 jours. Parce que 5 ans, c'est 5 années, c'est quoi? C'est la date butoir. Et justement, à partir de janvier, on va déposer une demande, la première du genre, une demande de signature de contrat d'association avec l'éducation nationale. Et on aura, Inch'Allah, Rahman Rahim, tout va bien, d'ailleurs, tout laisse comprendre que, Inch'Allah, on aura droit à ce contrat. Et donc, on va toucher un peu à l'argent du contribuable que nous sommes. Donc, on va un peu laisser la communauté se reposer un petit peu. On l'a sollicité pendant 4 années, nous en pendant la 5e année. Nous avons collecté pour jusqu'à aujourd'hui 1 200 000 euros de la communauté musulmane de l'agglomération lilloise. Je pense que l'État doit prendre la relève. Aujourd'hui, AVROS, elle a donné ses résultats. La première année, donc la première promotion bachelière 2005-2006, les uns et les autres ont peut-être pronostiqué sur un essoufflement, voire même une fermeture du lycée. On a eu droit à 75% de réussite baccalauréat. Peut-être, donc, on était tenté, quelques-uns ont été tentés de dire qu'au fond de compte, le hasard peut faire les choses, que peut-être c'est une chance, mais la confirmation des résultats. L'année qui suit, donc deuxième promotion bachelière, 86%. On a frôlé les 95%. Et aujourd'hui, donc, vous avez des étudiants qui viennent de partout, des écoles publiques, privées dans notre pays, mais en même temps, il y a aussi des élèves qui viennent de AVROS et qui sont à la fac de médecine, de pharmacie, aux écoles de prépa, à l'île 2, à l'île 3. Donc, nous sommes en train d'enrichir, on peut dire, le paysage universitaire français avec une petite empreinte musulmane. Voilà ce qu'appelle Ali la shurba. La shurba française avec du qusbour, avec voilà, quelque chose de particulier, ce que j'appelle moi la valeur ajoutée musulmane.
Inch'Allah. Alors, qu'est-ce qu'il en est, Omar, de la situation d'AVROS aujourd'hui? Parce qu'il était question de déménager, puisque vous louez toujours des locaux, du moins, vous êtes accueillis gracieusement à la mosquée de l'île Sud, à l'étage. Il est question d'avoir un bâtiment à l'extérieur.
Le jour où nous avons décidé d'ouvrir le lycée, c'était en 2003, avant même qu'on l'ouvre, donc une année avant, on était déjà dans une logique de trouver un terrain, un bâtiment, un site, quelque chose propre au lycée. Parce qu'on ne peut pas, je pense, que les activités ne sont pas compatibles entre une mosquée et un lycée. Mais faute de murs, donc nous n'avons que les murs que nous avons au 59 rue du Marquis, et Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que, bon, cette expérience voit le jour. À la mosquée. Peut-être c'est une très bonne chose. Les prières qui nous remontent justement de la salle de prière du rez-de-chaussée sont pour quelque chose dans les résultats justement du baccalauréat. Franchement, depuis 2003, on a sillonné la région, c'est-à-dire en nous focalisant sur l'île et ses environs. Ici à Roubaix, on a vu pas mal de sites à Tourcoing, à M, sur Vinaldasque, sur l'eau, sur l'île, mais nous voulons pour la symbolique du lycée rester à Lille. Aujourd'hui, nous sommes sur deux sites. On a failli signer à un moment donné, il y a un an et demi, sur Vinaldasque. Au mois de juillet dernier, il y a juste un peu de temps, on a aussi failli conclure sur un site aussi pas loin de la mosquée de l'île Sud, mais à la dernière minute, la mairie de Lille nous a déconseillé parce que la zone, c'est une zone d'activité industrielle difficile à reclasser par la suite. Nous avons des promesses, notamment sur la ville de Lille, et nous pensons que dans le courant de 2008, on peut annoncer aux musulmans un terrain sur lequel nous construirons le lycée AVROS.
On a appris aussi qu'il y avait un engouement de la part de la communauté musulmane. Vous avez plus de demandes que vous ne pouvez satisfaire.
Bien sûr, on a commencé la première année avec 11 élèves. Ce chiffre 11, après il est devenu 12. 12, vous avez très bien la symbolique du chiffre 12 dans le Coran, dans la Bible. Et j'ai eu droit à une lettre. du petit-fils du chargé de mission pour la première institut catholique ici dans la région du Nord. Donc il m'a envoyé un courrier en disant que mon grand-père, mon arrière-grand-père, qui était chargé d'ouvrir le premier institut catholique, elle a commencé avec 12 élèves. Donc l'histoire, je vais vous rappeler quelque chose, mais regardez autour de vous, il y a combien d'établissements catholiques, vous êtes sur la bonne voie, continuez. Voilà. Donc nous avons commencé par 11 puis 12 élèves la première année, c'est tout à fait normal. L'hésitation, les parents, ils vont vous confier ce qu'ils ont de plus cher pour qu'ils soient des cobayes. Il faut rappeler ça. Bon, aujourd'hui, ils sont à la fac de médecine, ils sont dans des écoles d'ingénieurs, mais la première année du droit, il fallait le faire. Il fallait faire que les parents vous confient justement pour que vous fassiez une expérience. Mais ils ont la chance d'écrire un jour, quand ils sont grands, d'écrire que, et de répondre à la question « j'y étais ». Donc j'ai assisté à la première promotion, justement, à Chelier. 11 la première année, 46 la deuxième année, 84 l'année dernière, et aujourd'hui on frôle 80-95. Mmh. On est plafonné, on ne peut pas accepter plus que ça. Franchement, vous y étiez, donc vous avez enseigné, vous avez vu, les élèves, franchement, quand on les voit, mais c'est vrai, ils sont aujourd'hui dans un milieu très restreint. Il y a ma fille, Khadija, qui est la femme de médecine, qui a décroché le bac l'année dernière, et il m'a dit, papa, il y a une grande différence entre la fille et la Averroès. Donc, Averroès lui manque, en quelque sorte. Donc, voilà, donc le nombre d'élèves augmente de ce moment. D'ailleurs, parmi les conditions de signature du contrat, il faut qu'il y ait une progression logique. D'effectifs, il faut que les résultats suivent, il faut que vous trouviez dans une, il faut que vous répondiez à une demande de nous, donc c'est pas quelque chose que vous créez, et nous à Averroès, on n'a rien créé, on a répondu à un appel à un moment donné. Premièrement, on a répondu à quelque chose de normal, les établissements confessionnels, plutôt les établissements cultuels, les mosquées. Il faut, en parallèle, que je sache, à chaque fois qu'il y a une église, qu'il y a une chapelle, il y a toujours une école à côté. Donc nous marchons sur les pas de nos prédécesseurs, notamment catholiques, israéliques, protestants de ce pays. Donc on n'avance pas le monde, il est là, on suit. Et nous remplissons, en quelque sorte, nous occupons l'espace que nous offre, si généreusement, la laïcité française. Donc la laïcité nous offre un espace où on peut respirer, Dieu merci, dans ce pays. Alors nous occupons, et on va, rassurez-vous, on va l'occuper entièrement. Donc on va occuper tout l'espace que nous offre la laïcité dans ce pays. À ce moment-là, une fois qu'on sera comblé, à ce moment-là, on ne demandera pas plus que ce qui nous revient de droit. Il y a des conditions, il faut que vous répondiez à une demande. Je pense que les musulmans aujourd'hui manifestent cette demande à travers, d'ailleurs, la souscription à Averroès. Il y a 650 à 700 personnes qui cotisent depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, chaque mois par prélèvement automatique, une somme qui commence de 15 jusqu'à 200-300 euros par mois. Ce qu'on appelle les fidèles d'Averroès, ceux qui sont en quelque sorte derrière le lycée. Et je pense que cette masse, quand on verrait une fois par an pour l'Assemblée Générale d'Averroès, franchement, ils sont là et ils soutiennent le projet du lycée.
Par contre, là, vous avez cité à peu près les critères d'un lycée. Est-ce que l'Averroès a connu des critères que les autres n'ont pas? Je parle des autres lycées catholiques, ou est-ce qu'on vous a mis beaucoup de freins, est-ce qu'on vous a freiné, est-ce qu'on a essayé de vous casser dans vos démarches? Un peu, qu'est-ce que vous avez ressenti, votre ressenti par rapport à cette démarche qui était le fait, au nom, entre guillemets, d'un lycée musulman? Est-ce que vous avez eu des freins, si demain vous avez fait un lycée quelconque, laïque ou un lycée, est-ce que vous avez eu ces mêmes freins?
Je suis tenté de vous répondre, parce que tout à l'heure je suivais vos propos sur Pastel FM en venant de Lille, et vous avez dit que la communauté rébésienne commence maintenant à le regarder autrement. Donc comme des Afghans, pas comme des Afghans, pas comme des Tchétchènes, mais comme des Français. Tout simplement, nous avons beaucoup de points communs avec nos concitoyens, et nous avons une petite simple particularité. D'ailleurs, chacun a sa particularité, nous avons la nôtre, et d'ailleurs la nôtre, on la vit entre nous, intimement, mais ce que nous partageons avec la société, il dépasse de loin ce que nous avons justement de particulier. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal, moi je comprends pourquoi le rectorat, à un moment donné, a manifesté une réticence. C'est tout à fait normal, je les comprends, charge à moi de les convaincre. Et à Yuhal Ladina Amanou, la tadkhulu buyutan ghayra buyutukum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Il est de notre devoir de convaincre les autres. L'autre ne comprend pas, c'est pas sa faute, c'est de la nôtre. Bon, là, nous avons fait ce qui est notre fait. Et aujourd'hui, le rectorat, franchement, les services du rectorat, l'inspection académique, vraiment, nous sont d'une importance. Nous collaborons avec eux, ils travaillent avec nous. D'ailleurs, c'est eux qui nous ont contactés il y a 2-3 semaines pour nous dire alors à quand le dépôt du dossier de signature de contrat. Donc, Dieu merci, nous réjouissons aujourd'hui, plutôt nous jouissons des conditions que beaucoup de musulmans dans les autres régions n'ont pas. Et ça, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, dans la région du Nord, franchement, l'islam ne choque pas. L'islam n'est pas un élément qui est une partie du paysage. Et ça, nous le vivons, sur Averroès. Nous le vivons aussi en tant qu'association musulmane. Quand on parle des musulmans de PACA, des musulmans de Sud-Est ou des musulmans de Paris, quand on parle des musulmans du Nord, souvent, on les traite d'une façon très objective. Et ça, je dis au passage, il faut dire, on a justement à la presse, dans sa grande partie à la presse locale, qui est très positive dans le traitement du sujet. Et Averroès bénéficie aussi de ça. On n'a aucune hostilité. Nous avons invité à un moment donné le préfet de région, il y a 2 ans, pour lui dire, voilà, monsieur le préfet, dès le début, nous, à Averroès, dès la première année, nous voulons respecter et observer tous les critères de la signature du contrat. Donc on ne va pas attendre jusqu'à ce qu'on nous rassigne pour et qu'on assume nos obligations en quelque sorte. Donc le programme français est rien que le programme français, bien sûr avec l'attente, avec ce qu'on appelle le caractère propre, qui nous montre c'est quoi le caractère propre. C'est d'abord la qualité de l'enseignement pour nous, c'est d'abord un enseignement de qualité, nous disons dans nos prospectus, deux, un enseignement qui est ouvert à tout le monde, pas uniquement aux musulmans, et un enseignement qui prend compte de quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs, qui est la culture musulmane. Donc l'élève baigne dans une ambiance musulmane, nous le disons, nous l'assumons, et je pense que c'est une richesse pour l'enseignement français.
Normalement, il reste encore un an pour signer le contrat, et d'ici un an, quelle est la situation financière d'Averroès? Parce qu'il faut encore tenir, hein, c'est le dernier 100 mètres, alors vous en êtes où?
Les 100 mètres dans une vitesse et dans un parcours, c'est vraiment le plus difficile.
Franchement,
maintenant, ils m'attendent. À 1h30, ils m'attendent à la mosquée. Nous avons commencé aujourd'hui la collecte à la mosquée Imen. C'est là où nous collectons le gros lot. Les 95% du budget d'Averroès, on le collecte à la mosquée du Sud. 400 000 euros. Budget chaque année.
400 000 euros.
Voilà. Budget annuel d'Averroès, 400 000 euros. Nous le collectons à la mosquée Imen. Et les autres mosquées, alhamdoulilah, ils nous aident, mais c'est là. Donc, j'ai un rendez-vous avec les fidèles de l'Imen vendredi, samedi, dimanche et les Lailatul Qadr. Et un Yom Isna. Alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui, nous avons collecté 1 200 000 euros durant les 4 années. 1 200 000 euros que nous avons collecté, que nous avons dépensé. Et je pense que c'est pas cher. C'est pas cher que de permettre à une fille qui n'a pas eu sa place parce que il veut être différente, tout simplement. Il voulait, en plus, marier un jean occidental, une chemise extrême orientale, on peut dire, à des Nike, là, et puis rajouter un foulard pour embellir tout, en faire de ça la tenue musulmane, parce que souvent, on focalise sur la tête et on laisse, on voit, et on semble quand même que la fille est établie à l'occidental. Il faut dire les choses telles qu'ils sont. Et nos filles sont des musulmans, des occidentales. C'est un mélange, en quelque c'est un enrichissement de la culture. Et bien, on a focalisé sur la tête de cette fille. Et d'ailleurs, nos filles, quand ils commencent à faire le foulard, c'est d'abord dans un souci d'embellissement. Il faut dire les choses telles qu'ils sont. Donc, ils veulent se faire belle aussi. Pas se faire moche avec son foulard, loin de là. Donc, aujourd'hui, c'est partie de la beauté, le foulard. Et bien, on n'a pas regardé la beauté de la chose. On a regardé, malheureusement, on a assimilé cette fille qui est d'abord française. On a assimilé une afghane, on a assimilé une iranienne, on a assimilé. Je n'ai rien contre les afghans.
On a diabolisé.
Ils ont fait un choix. De quoi je me mêle? Alors que les talibans ne sont pas en Afghanistan, mais l'amour qui est encore là. Donc je ne pense pas, ceux qui ont voulu libérer la femme, la femme, elle est là, ils sont libres, c'est son choix. Est-ce qu'elle est mauvaise ou bon? Moi je ne suis pas là pour me prononcer sur ses choix de valeur en quelque sorte. Et bien cette fille musulmane à qui on n'a donné aucune chance, au moins à l'Ouest, elle peut venir avec son voile comme elle peut venir sans son voile. Donc nous avons des filles qui portent le voile, nous le voile on n'en fait pas une affaire. Alors qu'elle vienne avec son voile, elle est la bienvenue. Sans voile, elle est la bienvenue. Il n'y a aucun problème d'ailleurs des garçons et des filles. Et ça, je pense que Averroès peut être fier de ça. On peut dire que c'est un lycée tolérant. Averroès, on peut dire que c'est un lycée tolérant.
Il est tolérant et laïque, puisqu'il accepte tout le monde.
Il accepte tout le monde.
Et les proportions au niveau des élèves, c'est beaucoup plus de filles que de garçons. Enfin, c'est une...
Les proportions naturelles, ouais. 55-45. 50... Dans la nature, il y a 55% de femmes et 45%
de... Je posais des questions justement par rapport à la loi sur, sur le voile, quoi. Enfin, on peut l'appeler comme ça. Est-ce que ça, justement, ça... Il y a beaucoup de filles qui devaient... Enfin, qui devrait ou qui pourrait naturellement justement se rabattre sur le lycée Averroès.
Oui, mais seulement il y a d'autres conditions. Il faut qu'ils fassent un bac S.
Donc déjà, ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un bac S.
Voilà, un bac S et voilà. On a reçu maintenant le S. Voilà, peut-être l'année prochaine, on va préparer la filière STT. Donc, on ne peut pas être l'alternative en quelque sorte à l'école publique. C'est elle qui nous a formé l'école publique. Aujourd'hui, ceux qui parlent dans l'école publique, franchement, il ne faut pas qu'on les laisse seuls s'approprier justement, s'accaparer. L'école publique, c'est elle qui nous a formés, c'est elle qui nous a inculqué ce que nous sommes en train de faire. Moi, j'ai dit qu'Averroès, et c'est tout à l'honneur de l'école publique qui a formé Amar Lassar, qui aujourd'hui a entrepris. Moi je suis formé à Lille, à l'IAE, donc je suis diplômé pour entreprendre. Et quand on me dit, monsieur Lassalle, pourquoi un lycée privé, je dis pourquoi pas, c'est un projet. Moi j'entreprends tous azimuts, je suis dans le transport, dans le tourisme, dans l'immobilier, et je suis aussi dans l'enseignement. Et voilà, à la limite, je suis tenté de dire que c'est un projet parmi d'autres, tout simplement. Et voilà, et je reviens justement à ce que disait le frère Rachid, que le parcours d'Averroès, ce n'est pas un parcours normal. Dieu merci, les conditions ont fait que, ils ont apaisé en quelque sorte. Regardez nos frères à Lyon. Nos frères à Lyon se retrouvaient face à un recteur intransigeant, voire même intolérant, mais qui on peut qualifier même d'autre chose en disant que je suis, citation, celui qui parle, je cite, je suis à moi seul, le seul rempart contre l'intégrisme. En tant que recteur, il a été largement récompensé, il a été rappelé à l'ordre et remercié par Dorobien, le ministre de l'Éducation nationale. Ah oui. Franchement, donc, il y a encore de la justice dans ce pays.
Voilà. Et le lycée est ouvert.
Il est ouvert. Le 3 mars. Al-Kindi. Et bientôt, Ben Khaldoun, à Marseille. Là, bientôt, Ibn Taymiyyah chez vous ici à Roubaix. Ibn Taymiyyah revient beaucoup ici.
Inch'Allah. Donc, est-ce que on peut faire un appel aux dons?
Oui. Les dons sont les bienvenus, soit par ordre, par prélèvement, ou ils viennent directement à l'État. Je préfère qu'ils viennent sur place aujourd'hui. Donc on a rempli le jeune. Chaque année, ils sont avec les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, l'administration. C'est quelque chose vraiment de...
Voilà.
Et donc, moi j'appelle les musulmans de venir sur place, de voir qu'est-ce qui se passe dans la semaine. La mosquée est vivante. Avec les retours des élèves, des garçons, des filles, on le couloir, franchement, et les fidèles de l'imam, de la mosquée de l'imam, à un moment donné, franchement, il faut. Je leur en veux pas, mais c'est difficile. Ils acceptent, voilà, et à un moment donné, mettre leur classe.
Donc, c'est l'habitude.
Ils ont l'habitude aujourd'hui. Voilà, parce que les élèves sont vivants. Voilà, vivants toute la semaine.
Sont très vivants.
Averroès nous a ramené de la vie. Justement,
Mais le souci que tu vas avoir plus tard, c'est quand, moi je vous souhaite rapidement de trouver un terrain, c'est que ça va quitter la mosquée, donc il y aura un vide. Donc comment tu as déjà un projet de substitution?
Déjà, l'école arabe, 950 élèves. Donc l'école arabe est là, et surtout on nous a rajouté 5 du matin maintenant.
D'accord.
Donc si on veut aider le lycée, on va sur place, 59 rue des Marquis, il y a un secrétariat, on accueille les gens, on leur explique le projet, et les dons sont bienvenus,
bien sûr.
En sachant que c'est la dernière année, c'est peut-être la plus difficile puisque ce sont les 100 mètres, les fidèles sont un peu fatigués, donc il faudrait du 109, il faudrait des nouveaux donateurs, des gens qui sont conscients de l'importance de la création d'établissements privés en France. On a commencé avec un lycée, il faut un collège, il faut le primaire, et pourquoi pas carrément la maternelle. Et je pense que c'est aux citoyens musulmans français de participer tous là où ils se trouvent à ce projet, parce que la phase des mosquées est plus ou moins révolue, on a encore vu des mosquées dans beaucoup de villes, mais la phase des lycées, des collèges, de l'enseignement privé est une nécessité aujourd'hui pour justement que tout le monde trouve sa place.
Les musulmans n'ont pas le choix. Ils sont appelés à financer leur infrastructure culturelle, sportive. Moi, je te traite d'exemple. À Caen, un centre de circoncision. C'est bête, Mais aujourd'hui, la plupart de nos enfants partent et ils essaient de contourner. On se retrouve que tous les enfants des musulmans sont atteints par la phimosis.
Ça veut dire quoi ça?
C'est une maladie qui permet justement, qui est remboursée par la sécurité sociale.
D'accord, d'accord.
Voilà.
Qui permet de circonciser.
Un centre de circoncision, je pense que c'est une demande aujourd'hui pour les musulmans. Une piscine, pourquoi pas? Une piscine pour les musulmans. Oui. Il faut développer des activités parallèles, complémentaires avec la mosquée. On ne peut pas arriver autour d'une mosquée uniquement avec la mosquée. La mosquée, elle est indispensable, elle est nécessaire, mais pas suffisante. Elle rythme la vie du citoyen. Mais il faut un compte économique. Aujourd'hui, je lance un appel aux commerçants. À nos commerçants. Si nos commerçants sont là, ils ont entrepris, si la communauté musulmane, une bonne partie de la communauté musulmane a entrepris, notamment dans le domaine commercial, et négatif les amendes de richesse, aujourd'hui, il va financer, ne serait-ce que par des dons officiels, d'une façon officielle, qui apparaîtront en quelque sorte dans leur comptabilité, et on ne fera pas appel aux musulmans lambda qui a du mal à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, moi, j'appelle les musulmans à s'enrichir, à travailler davantage, à dégager de la valeur ajoutée pour qu'ils viennent financer les projets des musulmans et les financer massivement. Nous avons l'exemple des Turcs en Europe. Les Turcs, ils ne font pas des collectes sur le Turc lambda. C'est sur les commerçants. Et ils sont suffisamment riches en Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne. Ils ont des grandes mosquées et ils les financent, notamment les commerçants les financent. Je pense que nous avons besoin de commerçants qui dégagent des richesses et puis qui sont un peu généreux.
Donc les commerçants de Roubaix, Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup.
Voilà.
Vous allez faire un tour, Inch'Allah, au lycée Averroès à l'île sud, en sachant que chaque année, il y a une journée porte ouverte.
Oui.
Et ça sera quand
On l'a fait une justement à la rentrée, vers le mois d'avril, mars-avril ou mai-avril. Hein.
En tout cas, on indiquera la radio.
Un commerçant, il fait de la pub. Et c'est une justement. Voilà, il a un pourcentage de justement de pub. Aujourd'hui, quand on a tel commerçant, d'ailleurs, les dents dans des lieux comme des mosquées ou des établissements scolaires, on ne les donne pas en cachette. On les donne là. Là, haut et fort, je suis telle structure, tel cadet, je finance telle mosquée. Et que les gens sachent que tel commerçant, il y a un retour en quelque sorte sur investissement. Mmh. Voilà, un retour sur ça. Et nous exhortons les commerçants à investir dans faire de l'investissement dans les mosquées comme ça. Il y aura un retour.
Donc là, on fait quand même. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuité au lycée Averroès. On espère, Inch'Allah, que ce ramadan va être plus bénéfique.
Et tu as tiré une chose, que tu voulais annoncer en tout cas aux auditeurs, c'est pour Salat al-Aïd al-Adha. C'est bien ça. L'île Grand Palais, Inch'Allah.
L'île Grand Palais, Salon de Bruxelles. L'année dernière, on était à Paris, Salon de Paris. Cette année, donc, on est allé vers l'Europe, à Bruxelles. Ce matin, on a signé le contrat. Il nous coûte encore une fois. Donc, on va penser à la financer.
C'est 15 000 euros
pour 4 heures. Hein. Je pense 15 000 euros pour réunir les musulmans. Moi, j'ai dit que si on me demande 100 000 pour que les musulmans du Nord se réunissent tous un jour, 100 000 musulmans dans une salle, je ne sais pas où, je le ferai. Parce que l'union des musulmans n'a pas de prix. Et je pense que l'Aïd a qualifié pour que les gens se réunissent, se rassemblent au maximum. Bon, on peut imaginer que quelques mosquées restent ouvertes pour les personnes qui ont du mal justement à se déplacer, mais il faut un lieu et justement tout le monde vienne, indépendamment de leur nationalité, parce que la dernière, j'ai entendu à la dernière minute qu'il y a une organisation de prière, paraît-il, réservée à une nationalité, mais je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'Aïd, c'est pas pour les Marocains exclusivement, c'est pas pour les Algériens, c'est pas pour les Tunisiens, c'est pour les musulmans de France, qui ont des origines, et là on a l'habitude du Sud de multiplier, d'additionner. On n'a pas l'habitude de soustraire, de diviser. Les origines de notre communauté, pour nous, ce sont des richesses. On trouve par exemple que dans le bureau d'association Amar Lasfar d'origine marocaine, Mohamed Taïb d'origine tunisienne, Mohamed d'origine algérienne, ils composent le bureau de l'association. Donc à la limite, on a oublié nos origines. Nous sommes des Français, nous sommes des musulmans, et nous essayons justement de conjuguer nos efforts pour en faire quelque chose. Et aujourd'hui, quand les maires du Nadas, du Lille, de Mons, cette année il y aura celui de Lambersart qui a demandé à venir, il a dit, il nous a reproché pour m'inviter pour l'ancien ministre du Logement, monsieur Dobrez, il a dit, mais pourquoi vous ne nous invitez pas? Nous, on invite tous les maires justement de l'agglomération lilloise, et ils viennent et ils prononcent la aboud, impérativement, une phrase en arabe. Mabrouk l'aït. Voilà, Mabrouk l'Aïd, Mabrouk l'Aïdkoum, Salam alaikum, ça a un sens. Et quand on vient, on voit devant, on était 15 000 l'année dernière. Cette année, on table sur, si samedi l'Aïd, on table sur 20 000 personnes. Et bien 20 000 personnes, notamment dans une période électorale, elles comptent beaucoup. Voilà, elles comptent beaucoup. Les musulmans, je pense qu'ils votent de plus en plus.
Inch'Allah. Donc l'Aïd samedi. Du moins, on fait toujours que ça soit samedi.
Vendredi.
Et si on veut que ça soit vendredi.
Voilà. Alors, c'est là que nous annonçons aux musulmans. Donc, la salle, elle est prête le vendredi ou le samedi. La prière de l'Aïd, c'est vers 10h du matin. Donc, on prend le temps parce que maintenant, on en a fait avant. Les gens commencent à venir à partir de Salat Soubah. Ils viennent, mais nous avons tout un cérémonial. Donc, les maires prennent la parole. Donc, on fait avant l'Aïd, il y a un programme qu'on fait, mais très très riche d'enseignements. On interpelle un petit peu le politique, c'est l'occasion justement, donc on leur pose des questions, on les pose justement à s'exprimer sur un certain nombre de questions touchant les musulmans.
Donc tout le monde est bienvenu dans la métropole lilloise, hommes, femmes et enfants.
Au Grand Palais.
Au Grand Palais. Alors l'idéal c'est de venir en métro, c'est ça?
Voilà,
c'est bien. En métro, en famille, chacun avec son petit tapis de prière. Et puis si on peut venir avec une assiette de gâteau, c'est super.
Voilà, avec 1€ ou 5€ dans sa poche.
Tout à fait.
Parce qu'on financera la salle. Je vous ai dit qu'on sont 15 000, si on donne 1€ chacun, 15 000 euros. Donc hop, on a payé la salle.
Avec la salle.
On va financer la salle.
D'accord, donc on cessera de le répéter, Inch'Allah, toute cette semaine. Donc la prière à Lille. Grand Palais, le salon Bruxelles.
Bruxelles.
Il n'y a qu'une prière ce jour-là à Grand Palais de Chambre.
Celle des musulmans de France.
Celle des musulmans de France.
Et à quelle heure? Donc avant?
À
10h. Donc venez un peu avant quand même. Inch'Allah. Barakallahu fik. Bonne continuation, Lisa Verroy. C'est Inch'Allah. L'année prochaine, on pourra échanger sur l'accréditation, le contrat qui sera fait, Inch'Allah, signé avec l'État. Nous devons aller dans ce sens. Vous restez à l'antenne et on se retrouve dans 5 minutes, Inch'Allah. De retour sur les ondes de Pastel FM, donc 21h37. Bienvenue aux auditeurs et auditrices qui nous rejoignent, qui sont à l'antenne. Enfin, quoi qu'il en soit, le 03 20 73 59 00, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. En présence de Hassan Rioussen qui est présent à nos côtés. Donc, il y aura de nombreuses questions, vous aurez des lots à gagner. Puis ce soir, Hassan, on va peut-être introduire le sujet sur.
Donc juste pour rester dans la ligne de conduite, Omar Asfar nous a quitté parce qu'il retourne dans la mosquée de l'île sud, la mosquée Iman, là où il est en train maintenant, j'espère qu'il est arrivé en bonne santé, en train d'organiser une collecte pour justement le financement du lycée Averroès. Et ça fait des années que la mosquée de l'île sud prend la quasi-totalité des charges du lycée à sa compte, et croyez-moi que c'est pas facile, hein. Ce sont des milliers d'euros, et si tous les musulmans de la métropole étaient conscients de l'importance de cet établissement qui est un établissement pionnier, s'il marche, les autres vont suivre derrière. C'est ce qui se passe déjà, on l'a vu à Lyon, bientôt à Marseille, et ça va essaimer un peu partout en France. Si tous les musulmans participaient avec autant d'enthousiasme, d'engouement que les musulmans qui fréquentent la mosquée de l'île sud, croyez-moi que même sans la signature du contrat avec l'État, nos lycées verraient le jour sans difficulté, parce qu'il ne faut pas oublier que la communauté musulmane est estimée dans la métropole lilloise à 1 million, 1,5 million de personnes. Donc qu'est-ce que c'est qu'un euro par personne? Je suis responsable d'une famille, j'ai 5 enfants, mon épouse et moi, ça fait 7 euros. Donc si toutes les familles musulmanes donnaient 7 euros une fois dans l'année, le problème est réglé. Bon, elles ne vont pas le faire parce que malheureusement la communication c'est pas toujours ça, mais on va réduire. Si on donnait 70 euros par famille convaincue du bien fondé de ce projet, on pourrait faire tourner 10 lycées dans la région. Donc j'insiste pour vous dire, Allah ibn al-Fikoum, tous ceux qui ont de l'argent, c'est-à-dire leur zakat, qu'elle aille au lycée. Ceux qui veulent faire des dons en plus de la zakat, qu'elle aille au lycée, parce que ce lycée doit continuer, car la qaddar Allah, s'il doit fermer pour des problèmes d'argent, on est reparti pour 30-40 ans avant de recommencer l'expérience douloureuse. Donc c'est très important. Ceci étant dit, alhamdoulilah, le lycée a vu le jour et il continuera comme d'autres mosquées. On pensait au début qu'elles ne pouvaient pas voir le jour parce que les sommes étaient trop importantes. Elles ont vu le jour, elles existent. Il y a du bien dans cette communauté. Cette communauté est une communauté, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il y aura du bien jusqu'à la fin des temps. Et on ne sait pas ce que on sera meilleur que les premiers, ou les premiers étaient meilleurs que nous, comme la pluie quand elle tombe. On ne sait pas, dit le hadith, est-ce la première pluie qui est la plus bénéfique ou la dernière des pluies. Sinon, les gens se posent beaucoup de questions pendant le ramadan et il faut qu'ils aient des réponses convaincantes, parce que on n'a pas le droit d'adorer Dieu dans le doute. Et parfois, malheureusement, les gens posent des questions aux personnes qu'il ne faut pas. Mmh. Et ils ont des réponses qui sont des réponses soit fausses, erronées, carrément, parce que la personne n'est pas compétente, ou soit des réponses qui ne sont pas appropriées, parce que la personne ne connaît pas la culture, la mentalité, le niveau de la personne qui lui pose la question. Ainsi, on a beaucoup de musulmans et des jeunes en particulier qui ne comprennent pas l'arabe, donc ils sont tributaires de tout ce qui est dit en français. Donc beaucoup de gens pratiquent le ramadan et autre chose, et leur pratique est accompagnée de quoi? Est accompagnée du doute. Et automatiquement, celui qui pratique avec le doute arrête de pratiquer un jour ou l'autre. Car Shaitan, il entre par quelle porte? Il entre par la porte de Ash-Shubuhat, Ash-Shahawat, la porte du doute, la porte du questionnement qui reste sans réponse, le trouble au niveau intellectuel, et la porte des passions, du plaisir. S'il ne nous a pas par ce piège, il nous a par l'autre. Le musulman doit être fort. Qu'est-ce qui le rend fort? C'est justement la connaissance parfaite de sa religion, si bien que lorsque Shaitan lui insuffle des questions pour objectif, non pas de développer sa foi, sa connaissance et de la renforcer, mais plutôt de la détruire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Amantu billah, hein, je crois en Dieu, il récite Qulhu Allah, il a une carapace. Et lorsque Shaitan vient pour l'avoir au niveau des passions, comme il fait le ramadan, il sait dire non au halal. Quand le Shaitan vient avec un piège haram, ben il dit deux fois plus facilement, parce qu'il a déjà été entraîné, hein, à résister au halal la journée du ramadan, donc il résistera plus facilement. Donc, faites attention, Allah ibarakfikoum, de qui vous tirez les réponses à vos questions. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, grand compagnon du prophète, il dit, attention, c'est une question de paradis et d'enfer. Hein, notre religion, c'est une question de paradis et d'enfer. Après, on fait tout ce qu'on fait pour aller au paradis, éviter l'enfer. Alors, sachez de qui vous tirez votre enseignement. C'est-à-dire, ne posez pas vos questions à n'importe qui. Hein, la personne peut vous égarer. La personne peut, consciemment ou inconsciemment, vous éloigner de Dieu et vous pensez que vous adorez Dieu, mais en fait, vous lui désobéissez. Et nous n'avons pas le droit d'adorer Dieu uniquement avec l'intention. L'intention n'est pas suffisante. Il faut l'intention, il faut que l'adoration soit conforme. Conforme à quoi? Conforme au Coran et à la Sunna, la tradition prophétique. Oui, il faut deux. Hassan Basri, radiallahu anhu, quand il explique le verset du Coran, Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Dieu nous éprouve pour voir celui qui est parmi nous va faire l'action la meilleure. Il a dit, la meilleure des actions, c'est quoi? C'est akhlasuhu wa aswaduhu, celle qui est la plus sincère et celle qui est la plus conforme, plus proche. Donc, et ce qui se passe, moi je le vois avec les jeunes, c'est que ils se posent des questions entre eux, au lycée, au collège, ils se posent des questions entre eux, et parfois les réponses de leurs copains ne sont pas des réponses valables. Le jeune, il continue à adorer Dieu, je le vois aussi chez des gens un peu plus âgés, mais qui ne fréquentent pas les mosquées, qui ne lisent pas. Mais ils questionnent ceux qui sont plus âgés, surtout ceux qui ont la médaille de Hajj. Ouais. Donc, comme c'est un Hajj ou une Hajja, puissance 2, 3 et plus, il y a du Hajj dans son passé, plus on fait confiance à ses réponses, conclusion, on prend ce que les gens disent pour des vérités, et en fait, ce sont des erreurs, des égarements. Et il faut questionner ceux qui ont le savoir. Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ar-Rahman fas'al bihi khabiran. Ar-Rahman, c'est lui, le miséricordieux. Tu dois questionner qui à son sujet. Tu dois questionner qui pour mieux connaître Dieu. N'importe qui? Non. Khabir, c'est-à-dire quoi khabir en arabe? L'expert. Vous entendez? Celui qui maîtrise la science divine. D'accord? Car on peut tuer quelqu'un. On peut tuer quelqu'un. Hadith rapporté par Imam al-Bukhari, de ces sahaba qui étaient en voyage. L'un d'eux a été blessé. Le matin, il devait faire la prière. Il était en état d'impureté majeure. Donc il devait faire les grandes ablutions. Une douche. Et comme il était blessé, il a estimé que s'il prenait une douche, c'était un peu risqué pour sa santé. Donc, il questionne qui? Il questionne ses compagnons. C'est une erreur. Parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils ont dit non. Tu dois absolument faire ta prière en liant tes ablutions. Donc, tu dois faire tes grandes ablutions même si tu es
blessé.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ses grandes ablutions. Et ça a aggravé sa situation, il est mort. Il est décédé. Au retour, on relate au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui s'est passé, et le prophète va réagir en disant: vous l'avez tué. Vous l'avez tué. Trois fois, vous l'avez tué. Ne savez-vous pas que la solution à l'ignorance, c'est le questionnement? On vous a posé une question, vous ne savez pas, taisez-vous, dites Allah alam. Allez demander à ceux qui savent.
Bien sûr.
Pourquoi aujourd'hui tous les musulmans sont devenus des muftis? Tous les musulmans sont devenus des muftis. Alors que Sufyan ibn Uyayna, Allah alam, dit, il n'est pas permis, d'ailleurs, il n'est pas permis à celui qui n'a pas connaissance de la divergence des savants de répondre aux questions. C'est-à-dire, il ne suffit pas que tu aies la réponse à la question. Il faut que tu connaisses les autres réponses qui sont peut-être différentes, sont peut-être différentes de la réponse que toi tu apportes. Pourquoi? Pour que justement tu aies un choix de réponse, pour que tu choisisses la réponse qui va aller avec la personne qui te l'a posée.
Donc la plus appropriée.
La plus appropriée. Parce que la fatwa, la réponse, change. En fonction de quoi? En fonction de l'individu, en fonction de sa situation physique, financière, psychologique, de son niveau, en fonction de son sexe, en fonction de son âge, en fonction de l'époque, en fonction du milieu, en fonction des circonstances, parce que l'objectif c'est quoi? C'est que justement la personne puisse adorer Dieu dans toutes les circonstances. On ne répond pas de la même manière à la même question à un malade ou à quelqu'un qui est en bonne santé. C'est pas la même chose. À quelqu'un qui vient à peine se convertir, à quelqu'un qui a 30 ans d'islam.
Par contre, justement, Hassan, comment aujourd'hui, comment ça, on parle d'experts, on parle de personnes, tu l'as si bien dit, qu'ici on a de plus en plus de savants, à Roubaix ça court toutes les rues, on a des pseudos. Donc ils se disent savants. Donc le souci qu'on a tant pour les convertis, pour les jeunes qui rentrent le din, quoi, dès qu'ils on dit de se rapprocher, quand c'est vrai qu'il y a un questionnement, on se rapproche d'un frère en posant la question. Donc le problème étant, c'est comment discerner le vrai du faux. Et ça, c'est un vrai souci, parce que tu parles du côté Hajj, super Hajj, N plus 10 ou tout ce que tu veux, il y a aussi à la longueur de la barbe. Ça veut dire que s'il y a ce côté-là, si le gars est toujours en prémesse, celui qui va toujours en mosquée, c'est bien expliqué que c'est pas que celui aussi qui est 5 fois et qui est toujours à la mosquée, forcément c'est pas ça.
Il est compétent.
Voilà, complètement.
Loin de là.
Donc comment discerner le vrai du faux? Comment voir un peu, est-ce que ici il n'est pas plus intelligent de poser la question à un de reposer la même question à un autre imam? Oui. Et je pense que d'abord, c'est la première chose, c'est de se rapprocher des imams.
Bien sûr. Et on a malheureusement à un moment donné dénigré les imams en disant que les imams ne sont pas toujours compétents. Mais je préfère un imam qui ne maîtrise pas le français mais qui maîtrise bien sa religion que quelqu'un qui certes est sans doute pieux et sans doute fervent et maîtrise bien le français mais ne maîtrise pas la science religieuse. Celui-là est beaucoup plus dangereux. Pourquoi est-ce qu'il est dangereux? Parce que sa piété, elle le regarde. Son assiduité dans ses prières, c'est entre lui et Dieu. Sa connaissance va me toucher. Elle va changer ma vie. Elle peut me faire avancer comme elle peut me faire reculer. Donc il vaut mieux un imam qui n'a pas toujours tous les outils, mais en tout cas, il a un bon fond de commerce. C'est-à-dire, il a une connaissance approfondie de la religion qui lui permet justement de ne pas y aller. Pour l'anecdote, il ne faut jamais... Hein, la Bible, ce n'est pas le musulman. C'est dans l'ambiance islamique. La Bible ne fait pas le musulman et l'assiduité, les pratiques ne fait pas non plus le savant. L'imam Abu Hanifa, une personne dotée d'une intelligence extraordinaire, était à la mosquée un jour et puis il donne cours, hein, et il y a une personne âgée qui assiste à son cours, une personne qui a une prestance, hein, qui dégage une aura extraordinaire parce que portait effectivement une tenue vestimentaire, une belle barbe, un beau turban. Bref, l'imam a été impressionné par son look, hein, islamique. Et donc l'imam Abu Hanifa, il lui vouait, hein, une certaine révérence, beaucoup de respect, jusqu'à un jour où l'imam Abu Hanifa, d'ailleurs, quand il était avec ses étudiants, fatigué, il étendait ses jambes, et quand cet homme rentrait, il s'asseyait vraiment par respect. Jusqu'à un jour où cet homme pose une question. Et il dit à l'imam Abu Hanifa, alors je ne sais plus exactement de la question, mais en tout cas il a posé une question qui était ridicule, bête et stupide, du genre, est-ce que je peux prier la prière de l'Aïcha à midi? Hein, un truc comme ça, vraiment un non-sens. Et l'imam Abu Hanifa, quand il a vu ça, il a dit maintenant je peux étendre mes jambes. D'accord.
C'est ce qui me fait aussi un peu rire, et je le vois parce que dans l'expérience un peu parle pour moi et un peu sur les constats que j'ai pu faire sur la communauté musulmane de Roubaix depuis 87, disons bien avant, mais 87, j'ai fréquenté les mosquées, dont la mosquée Abou Bakar, dont je suis un peu le petit-fils de la création de la mosquée. Donc j'ai vu grandir, je me rappelle d'une époque où à chaque question qu'on avait, même l'imam, hein, il disait Wallahu a'lam, qu'il ne savait pas répondre. Aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est qu'on parle n'importe quelle question à les personnes, c'est qu'ils donnent la réponse tout de suite. Sans réflexion, d'après son, on dirait une récitation. On dirait que les gars, le matin, se préparent à toutes les questions qu'on lui posait, qui sont d'ordre basique, hein, mais après, sur le fond, quand tu les questionnes sur Farid ou deux, donc les obligations, par exemple, des ablutions ou les obligations de prière, les gars ne savent pas répondre.
Ouais, ils sont perdus.
Donc c'est le côté qui est vraiment. Non, mais c'est vrai, c'est un constat qui est réel que je dénonce, parce que bon. Ça me fait trop rire, quoi. Donc le but, c'est vraiment de dire à la jeunesse roubaisienne, même aux alentours, qu'il existe des imams, qu'ils ont une compétence, ne fût-ce, tu l'as bien dit Hassan, ils ne parlent pas le français. Aujourd'hui, nous, on a des traducteurs à la mosquée qui sont reconnus par la mosquée, qui jouent le rôle transitoire, donc, entre la question posée à l'imam, sans retirer un mot de la question et sans retirer un mot de la réponse. Dans les traductions, par exemple, l'imam, et il le dit très bien, vous ne sortez pas du contexte, parce que la parole que vous avez dans le français, c'est ce que je dis en arabe, donc tout va vers moi. Donc aujourd'hui, on a une personne qui est vraiment de compétences, pour ceux qui viennent du Maroc chez nous, donc ils ont bien le niveau de la tradition qui est excellente, mais on est très 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 vigilant. Pour ne pas sortir du contexte, parce que le rôle primordial d'un imam, c'est lui qui inculque un peu l'islam dans sa mosquée, dans son fief, dans sa paroisse.
Il est, comme le dit l'imam Ibn al-Qayyim, dans un livre extraordinaire qu'il appelle « I'lam al-muwaqi'in an Rabbi al-alamin ». C'est un recueil qui a pour objectif justement d'expliquer, de montrer aux savants, hein, c'est réservé à cette élite, comment répondre aux questions des gens. Et c'est beau, il dit ceux qui signent au nom de Dieu, c'est-à-dire le savant, il parle au nom de Dieu. C'est une lourde responsabilité. L'imam, il représente quelque part la parole de Dieu. Il se dit Dieu a dit, le prophète a dit. Et c'est vrai, Rachid, ce que tu dis, subhanallah, aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes ont la réponse facile. Alors que l'imam Malik, on lui a posé une quarantaine de questions, et sur la majorité des questions, il a dit Allah a'lam. Et ça a choqué justement les questionnaires en lui disant écoute, tu sais qu'il nous met pour que tu nous envoies bouler en disant je ne sais pas. T'as intérêt de donner la réponse.
Et
dites-leur que l'imam Malik ne sait pas.
Mais je pense que le verset Mawad, Daraka Rabbuka wa Mawad, il ne t'a pas abordé. Je pense que c'est venu sur eux, parce que le prophète
s'en fout. Ah oui,
mais
t'as fait.
Et nous, Allah ne nous a jamais laissé, on a la réponse.
C'est pas dû, on va dire simplement, à notre histoire, simplement, notamment au niveau d'immigration, le fait qu'on s'installe, le fait qu'on est plus ou moins des pionniers. Enfin, j'entendais tout à l'heure à la fin, c'est le premier lycée, donc c'est la première chose qui se construit. Donc au niveau de la connaissance, il y avait effectivement un vide, donc les choses qui se remplissent.
C'est dû à plusieurs choses, Abdelkader, mais c'est dû essentiellement, Allah alam, à la personne elle-même, à son éducation. Celui qui a un minimum de modestie, celui qui a un minimum d'intelligence, il se fait petit, il rase les murs, tout simplement. Pourquoi ? Parce que celui qui craint Dieu, avant de parler, il réfléchit. Parce que on oublie que chaque parole que nous prononçons va se retourner contre nous si ce n'est pas une parole qui est conforme. Donc la modestie, la retenue, l'effacement, c'est une qualité qui est fondamentale. Shaitan, ce qu'il a égaré, c'est le kibl, c'est l'autosuffisance, c'est le ana, moi. Moi je pense,
parce que
complètement. Moi j'ai décidé. Ça suit. Alors que, subhanallah, ils disent, les sahaba, quand ils étaient assis, quelqu'un leur posait une question, ils se renvoyaient la question mutuellement, disant questionne.
Pendant la responsabilité de la
réponse. Et la question tournait, il n'y en a pas un qui voulait fuyer. Pourquoi ? Parce que. C'est... Donc nous, on répond comme ça facilement, c'est pas grave, on sait pas. Donc il y a une perte de cette valeur, valeur de la crainte de Dieu, de la modestie, de la piété, puis de la responsabilité, tout simplement. Celui qui se sent responsable de ce qu'il dit, il fait attention à ce qu'il dit. Celui qui ne se sent pas responsable, il balance.
Mais Hassan, tu vois un peu ce que ça fait dehors aussi.
Des dégâts.
Des dégâts. À un point, aujourd'hui, on arrivait à une critique des imams. Les imams sont remis en cause sur leur connaissance, sur leur. Je ne citerai pas le nom d'un certain imam, mais qui a fait ses études à Médine et ainsi de suite, il est revenu. On l'incendie.
On va le dénigrer.
Complètement. Mais c'est incendié. Le terme, c'est incendié. Ça veut dire que. C'est le gars est incompétent. Attends, il a donné sa vie alors que nous, on était en train de tenir les murs. Tout le gars, dans sa jeunesse, il s'est dit bah tiens, moi, je me rapproche d'Allah, je veux apprendre ma religion. Ils ont immigré, ils ont été dans d'autres pays pour apprendre la religion.
Aucun respect.
Et ils n'ont pas de respect envers ces gens de science. Ces gens qu'ils ont donné pour Allah et leur jeunesse. Nous, on l'a donné au football, on l'a donné dans les boîtes de nuit, dans les cafés, on les a donné dans le truc. Et aujourd'hui, cette reconnaissance du savoir, elle a complètement disparu. Disparu aussi par notre côté aussi que je vois, parce qu'il y a un ordinateur Internet qui fait des dégâts monstrueux.
Catastrophe.
Qui fait des dégâts, parce que aujourd'hui, tu tapes des sites, quand je lis. Déjà, il faut avoir du ilm, d'accord ? Il faut avoir une base qui est avoir des connaissances islamiques. Alors, imagine-toi le converti qu'on lui dit va sur tel site dont je ne citerai pas, et tu poses des questions, tu as des questions, tu as les réponses. Mais effectivement, mais le gars qui lit ça, au départ, il n'y a pas d'ilm, il n'y a rien, il ne connaît rien du tout.
Il est incapable de tamiser. Et ça, c'est grave, ça, la science qui est tirée d'Internet. Ce que tu disais, c'est une vérité, Rachid. Regardez, c'est. Comme le frère que tu as cité, il s'en va, il reste 10 ans, assis, il puise son savoir de qui ? Des hommes du savoir. C'est ça ? Et il ne puise pas uniquement la connaissance, mais c'est de l'éducation. Hein ? Il est éduqué au niveau moral, au niveau éthique, au niveau aussi comportement, piété, en même temps de son éducation intellectuelle et religieuse. Et seulement après, il revient. Alors que nous, on croit que c'est juste une question d'emmagasinement de connaissances. C'est pas vrai. Celui qui n'a pas été poli par l'éducation des hommes ne peut pas devenir un homme de savoir. Impossible. Et même Ibn Jawzi, radiallahu anhu, a eu plus de 1000 enseignants. Plus de 1000, il dit. Il dit cependant, sur ce grand nombre de personnes, deux ont eu un impact extraordinaire sur moi. Bien qu'ils n'étaient pas parmi tous ces savants ceux qui avaient le plus de connaissances. Qui sont ces deux personnes? C'est Abu Mansour al-Jawalifi et un autre. Il a dit, on allait, on assistait à son cours, il passait plus de temps à pleurer qu'à parler. Il passait plus de temps à pleurer qu'à parler, si bien que son état spirituel nous a beaucoup plus influencé que son, que ses dires, que ses paroles. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de nos jeunes n'ont pas ce contact avec les gens du savoir. En fait, beaucoup de jeunes ne sont pas éduqués, tout simplement. Ils ont peut-être des bribes de connaissances, mais ils n'ont pas l'éducation. Okay. L'éducation est essentielle.
Donc, on va prendre une question à l'antenne, Inch'Allah. Oui, allô? 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 Allô, on vous écoute? Oui, allô? Un petit problème technique, Inch'Allah, qui sera résolu d'ici quelques minutes. Okay.
Alors, deuxième point sur lequel il faut revenir, puisque on est dans la dernière décade du Ramadan et la nuit du destin. Alors, la nuit du destin, bon, vite fait, bien fait, parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est bien de rappeler, hein, car le rappel est utile. La nuit du destin, bon, le verset du Coran, la sourate coranique, elle est claire, elle est nette. Bismillahir Rahmanir Rahim, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Le Coran était révélé d'entrée la nuit du destin, et ensuite pendant 23 ans il a été dispatché sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné pendant ces 23 années. Donc, et Dieu l'appelle la nuit du destin, laylatul qadr. وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, qui vous dira les bienfaits, la grandeur, c'est pas une nuit comme les autres. Alors, Dieu le dit, هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِشْفَهَ.
Oui, allô, excusez-moi.
Allô.
Oui. Oui, on vous écoute, vous êtes en direct sur Pastel FM, on va entendre une chanson pour votre Hassan juste après.
Ok.
Allez-y.
Bon, j'avais une question pour toi, Hassan.
Toi, donne, mon frère.
Tout d'abord, je te salue, parce que l'islam, c'est comme Alhamdoulilah, salam wa barakatuh.
C'est comme ça, la
France. Et c'est par rapport au crédit, à riba.
Oui.
Je suis parti me renseigner à plusieurs imams, oui, par rapport au crédit immobilier, parce que j'envisage, ou bien je compte plus tard, Inch'Allah, je ne sais pas, acheter une maison.
Mmh.
Et il y en a qui me disent c'est interdit, il y en a qui me disent pour ta première maison, tu peux. Et je ne sais pas trop exactement où donner de la tête, quoi. J'essaie de faire mes recherches personnelles. Et je suis en pleine.
J'ai compris la question.
Le sujet, en fait, c'est à pleine divergence, quoi. Il y en a qui me disent oui, non, quoi faire et comment faire.
C'est bien, j'ai compris ta question.
Donc voilà.
Donc tu vas écouter la réponse.
Inch'Allah.
En ce qui me concerne, la réponse est la suivante. C'est je ne sais pas. D'accord. Donc
okay,
tu demandes à quelqu'un d'autre, Inch'Allah, en qui tu as confiance et qui est plus compétent.
Ok.
Hayakallah, mon frère. Un plaisir, Inch'Allah. Donc la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire celui qui va profiter de cette nuit en allant en discothèque, en regardant les nuits du Ramadan, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font encore la nuit du destin, en restant dans la rue la nuit, à s'amuser, c'est ça qui est terrible aujourd'hui, subhanallah. Le Ramadan, qui doit être un mois d'adoration, un mois d'ibada, chez beaucoup de jeunes, c'est un mois, subhanallah, où ils font des péchés qu'ils ne font pas après le Ramadan. C'est terrible. Dieu dit, c'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Et au lieu de passer cette nuit dans ce qui est utile, dans les cibas et l'au-delà,
okay,
on prend quelqu'un.
On va prendre quelqu'un, Inch'Allah.
La priorité.
Ah, donc, c'est un appel de Médine. C'est Ibrahim, allô?
Allô, assalamu alaikum.
Hayakallah.
Kif halkoum?
Ben on est vivant, alhamdoulilah, et toi?
Comment allez-vous?
Bah écoute, on irait mieux si on était à tes côtés avec toi. Mais tu nous as encore bien arnaqué en partant, en nous laissant.
Ramadan Mubarak,
Fayakallah, Ibrahim. Amien, là, tu as de la chance.
Barakallahu fi.
Ça a été chouette. Alors, comment c'est Médine pendant Ramadan?
Ah, c'est merveilleux.
C'est un coin du paradis, c'est ça?
Exactement. Exactement.
Il y a du monde, je suppose.
Ah, il y a du monde. C'est hyper rempli. Alhamdulillah. C'est des moments inoubliables.
Et il y a beaucoup de rahma. Hein. Les gens, ils sont très généreux.
Exactement. Exactement.
Alhamdulillah. Et est-ce que tu as rencontré maman?
Non, malheureusement.
Ah, Abraham, ça va te coûter cher, ça.
Inch'Allah. Si tu me passes ton numéro de téléphone, je l'appelle, Inch'Allah.
Allah yahdak, Abraham.
Elle est à Médine en ce moment ou bien elle est à la Mecque?
Non, elle est encore à la Mecque.
Elle est encore à la Mecque,
Inch'Allah. Abraham. Est-ce que tu as vu le Cheikh Salah?
Je l'ai vu, il te passe le grand salam.
Allah salam, tu le salues.
C'est tous les frères.
Barakallahu fik, Abraham. Et tu comptes revenir quand, Inch'Allah?
Mardi, Inch'Allah.
Aïwa, tu passeras l'Aïd ici.
Inch'Allah.
Hayakallah, Ibrahim.
Barakallahu fik. Écoutez, je vais vous passer le hajj Tami pour vous dire quelques mots.
Barakallahu fik, jazakallahu khairan.
Allez, salam alaykoum.
Salam
alaykoum à tous les jours.
Shukran, Ibrahim.
Allô? On n'a pas été coupé là?
On a été coupé, on dit rien.
Non. Au revoir. Allô?
Ça fait du bien de te rappeler de Médine. En deux ans, je me croyais là-bas, même si j'ai jamais été. Donc, merci à Brahim.
Inch'Allah. Je souhaite le plus tôt possible.
C'est dans les projets. Mais bon, en attendant un peu Brahim, ce qu'il disait de Médine, je me suis évadé. J'ai fait un voyage nocturne.
Tu t'es projeté. Non, mais attention, Médine, c'est exceptionnel.
Allahu Akbar.
Mais tu vas là-bas, mon frère, tu te sens vraiment au paradis. La présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose que personne ne peut nier. Tu sens que le prophète, il est là, il est présent. La preuve, demande à tous ceux qui sont allés en Arabie, qui ont fait le pèlerinage, ils vont dire, tu veux rester à la Mecque ou à Médine? Ils te diront, on veut rester à Médine, on veut pas rester à la Mecque.
On va reprendre le hajj, inshallah.
Oui,
allez, salam alaykoum, je vous repasse le
hajj. Allez, okay. Salam.
Allez, salam alaykoum. Allô?
Naam al hajj.
Alors, qu'est-ce que tu veux que je dise?
C'est le Hajj. Dis-nous deux mots sur Médine. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est magnifique?
Omar,
Michel, Hajj.
Michel, mais c'est plus que merveilleux, Akhi Hassan. Wallah, Akhi, c'est vraiment, moi, quand je viens ici, à chaque fois, Akhi, d'abord, je souhaite là, vraiment pour à tous vos éditeurs, vos auditeurs, là, ceux qui vous écoutent là. Et Inch'Allah, on fait une prière pour eux, même si on n'y sont pas.
Jazakallah khairan al
hajj. Inch'Allah, vraiment, c'est indescriptible. Là, tu ne peux pas imaginer. Soit la Mecque, soit la Médine. Médine, c'est vraiment la paix, c'est l'attitude. On se bouscule. Il y a beaucoup de monde. Vraiment, il n'y a que la prière avec le Coran, la Hadith. Maintenant, ils sont à côté de messager. Et que voilà, la personne qui est venue, qui est toute seule, en fait, sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Mohammed, là, il est là, les gens sont en train de lui passer le salam. Ça a amené là. Il y a toutes les nuits. Cette lumière, il ne s'épuise jamais, Inch'Allah. Jusqu'à la fin du monde, Inch'Allah. Même ça va jusqu'au-delà, au-delà, Inch'Allah. Mais je pense, puisque les gens, je crois, ils se préparent pour le pèlerinage une fois dans la vie. Je crois que si c'est très intéressant pour les gens de se préparer une fois aussi dans la vie pour venir faire effectuer le ramadan. Au moins le ramadan. Le ramadan ici dans le lieu saint. Oui. Au moins une fois la vie.
Une fois dans la vie, c'est une expérience particulière.
Oui, c'est recommandé de prendre une obligation, mais c'est vraiment... C'est, oui. Parce que vraiment, c'est une atmosphère exceptionnelle. Exceptionnelle, Inch'Allah. J'espère que ce jeûne, le jeûne de mois de Ramadan, il a un impact. Un impact sur la conduite des musulmans dans le monde entier. Vraiment, pour qu'ils soient des vrais ambassadeurs de la religion musulmane, des vrais ambassadeurs de messagers de la paix. Qui venaient ramener la lumière et la paix pour toute l'humanité, pour tous les êtres humains. Devenez montrer le chemin à tous les êtres humains sans distinction. Vous trouvez toutes les origines ici, toutes les nationalités, toutes les couleurs. Vraiment, l'homme ici avec un grand H qui est en train de prier, qui est en train de se confier à son Créateur. Bon courage.
Allah Ta'ala. On te transmet les salutations au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'oubliez pas de faire des doigts.
Ils ont vraiment de la chance sur nous.
Dieu les a choisis. En sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith véridique, authentique, que celui qui fait une umra pendant le mois de Ramadan, sa umra équivaut à un pèlerinage.
Inch'Allah.
Et bientôt, Inch'Allah, le Ramadan, ce sera au mois d'août. Donc on sera en vacances. Et c'est bien de prendre ses vacances là-bas. Vous allez au bled, on détourne un peu notre qibla. Que malheureusement, chaque année, les gens vont au bled. Et s'ils allaient là-bas, moi je connais un frère, il est marié, il a 3 enfants, il ne va plus au bled. Chaque année, au mois d'août, il s'en va à la Mecque à midi avec sa femme et ses enfants. Ma vie, c'est la totale, dans tous les sens du terme. Au niveau spirituel, au niveau repos, au niveau... Donc, au moins soyons justes. Une fois le bled, une fois là-bas.
Non, non.
Comme ça, il y a un équilibre et puis on découvre.
Alhamdoulilah, barakallahu fik. On va se prendre une pause, mais avant, on va poser une question. On va faire quand même gagner un lot à l'auditeur. Donc, question pour un musulman.
Alors, la première question, Abdelkader. Combien de jours le mois de Ramadan comporte-t-il ? Vous avez le choix entre 3 propositions. 29 jours, 30 jours, ou alors tantôt 29 ou tantôt 30. Donc, je répète la question, combien de jours le mois de Ramadan comporte-t-il ? 29 ou 30 ou tantôt 29 ou tantôt 30 ?
Puis-je répondre ?
C'est une question facile.
Donc 03 Vincent 13 59 00, on va s'opérer une petite pause et vous pouvez appeler entre deux. De retour sur les ondes de Fast FM, il est 22h20, on repose la question Faisal. Donc on sait très bien que le standard a explosé, c'est vrai, j'aurais dû dire appeler dès la reprise. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui seront frustrées. On va prendre une question en direct quant à la question de sur Ramadan, combien de jours comporte-t-il, 21 jours, 30 jours ou alors 29. Tantôt 29, tantôt 30, c'est bien cela.
Ceci dit, il faut rappeler pardon la règle, le premier qui donne la réponse, après tous les autres deviennent caduques.
Bien sûr.
C'est fini,
bien sûr.
Donc désolé pour...
Donc le premier.
On va prendre le premier. Oui, allô. On va prendre une personne en direct, si on a quelqu'un, Samir. Oui, la réponse à la question qu'on a posée juste avant la pause. Oui, allô.
Salam alaikum. C'est pour répondre à la question.
Allez, on vous écoute.
Alors, c'est tantôt 29, tantôt 30.
Vous êtes sûre ?
Certaine.
Sur quoi vous basez pour dire ça ?
Ben, déjà, sur les calendriers qui distribuent, marque le dernier jour est un jour de doute.
Oui. Et quoi encore ?
Et sur aussi la lune, je pense.
Alors, qu'est-ce qu'elle a la lune ?
Donc, quand c'est la pleine lune, je pense que c'est la fin du Ramadan.
Ah, parce que c'est la pleine lune, vous pensez que c'est la fin du Ramadan. Mais si c'était pas la pleine lune, alors ?
Pardon ?
Si c'était pas la pleine lune, qu'est-ce que vous auriez pensé ?
Ben, que c'est encore le Ramadan.
D'accord. Non, mais bon, ça va, ça va. C'est ce que vous dites, c'est intelligent. En sachant qu'en vérité, les mois lunaires ne sont composés que de 29 ou 30 jours. Point final,
tous les mois.
Donc, on aura toujours 29
jours de Ramadan ou 30 jours. On ne peut pas avoir 28 ou 31.
D'accord. Oui, ça j'ai compris. Mais une petite question par rapport à ça.
Allez-y.
Sur les calendriers français.
Oui.
Quand on regarde le calendrier français en lui-même, il est noté les pleines lunes, les croissants de lunes et tout ça.
Oui.
On peut se baser dessus si c'est, la plupart du temps c'est fiable ou pas?
Non, c'est très fiable. Le seul problème, c'est que pour commencer le Ramadan ou pour le finir, il faut voir le croissant. La majorité des savants demandent la vision du croissant et non pas seulement la naissance.
Oui, je me doute parce que
si on se base sur les calculs, si on se base sur les calculs, comme vous dites, le calendrier, le problème il est réglé. On sait quand ça commence, quand ça se termine. Si on se base sur la vision, donc puisque la vision elle est humaine, à ce moment-là, il faut attendre le dernier jour, l'avant-dernier jour, et puis
d'accord,
on laisse faire les gens pour regarder. En tout cas, vous avez gagné un livre. Félicitations. Vous laissez votre nom, vos coordonnées au rentrer.
Vous nous rassurez. D'accord, Baraklaf. Et quand je tenais à vous remercier pour l'émission que vous faites, ça fait plaisir et ça remonte, alhamdoulilah, à la fois.
Baraklaf, c'est un grand plaisir.
On va enchaîner sur une autre question, Inch'Allah. Faisal, tu nous as concocté une autre question?
Bien sûr. Alors la question est la suivante. Quel est le devoir qui incombe à la femme enceinte et à celle qui allaite si elles n'ont pas jeûné tout ou partie de Ramadan? Il y a trois propositions. La première, c'est elles doivent jeûner un nombre de jours égal à celui des jours de Ramadan qu'elles n'ont pas jeûné forcément, ou elles doivent, contre chaque jour de Ramadan, non jeûner, nourrir un pauvre, ou alors, la dernière proposition, elles doivent faire l'un et l'autre.
C'est parfait. Donc on entend dans la réponse, je continue avec Laylat al-Qadr.
Inch'Allah.
Donc Laylat al-Qadr, c'est une nuit qu'il faut passer en adoration, et non pas en amusement, en distraction, parce que celui qui réussira à adorer Dieu pendant cette nuit, ou une partie de la nuit, il sera comptabilisé pour lui l'adoration de 1000 mois, c'est-à-dire
3
ans et 4 mois. Donc, on est capable d'adorer Dieu toute notre vie en une nuit. Hein, si on vit 80 ans, hein, en une nuit, on peut adorer Dieu le temps de toute une vie. Alors, si on fait 30 ramadans dans notre vie, ça fera 30 fois 1000 nuits, 30 000 nuits. Donc, ça nous ferait une vie de combien? Une vie de 30 fois 80 ans, c'est-à-dire 2400 années. C'est-à-dire, on aura vécu plus longtemps que nous,
alayhissalam. Le double, quasiment.
Oui, plus que le double. Donc, on est capable de vivre plus longtemps que nous et dans l'adoration. Et ça, c'est une bénédiction propre à la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il y a un hadith qui est faible. Où le prophète Aïssalam a été questionné en disant que notre communauté, la moyenne d'âge est courte, hein, c'est 60-70 ans. Alors que jadis, les communautés précédentes, elles vivaient plus longtemps. Donc il y a quelque part une inégalité de chance. Et le problème a été résolu avec Laylat al-Qadr, puisqu'on est capable, de quoi on est capable d'avoir une double vie. Notre vie physique, réelle, malheureusement la plupart de ce temps on le passe pour l'adoration, et puis une vie spirituelle propre au Ramadan qui fait qu'on est capable en une nuit, inchallah, de rattraper notre passé, même de nous projeter dans l'avenir. Donc c'est une occasion. Alors c'est quand la nuit du destin, le hadith dit que c'est forcément une nuit impaire parmi les nuits impaires du Ramadan. Maintenant, certains savants s'arrêtent sur la 27e nuit. Rien n'empêche que ce soit cette nuit-là. En tout cas, ça reste que c'est une nuit qui est plus ou moins floue. Et c'est volontaire pour que les musulmans fassent plus d'efforts. Si c'était figé, fixé, on serait un peu plus feignant. On se contenterait uniquement de cette nuit figée, fixée. Donc là, il y a un flottement. Hein, la 21e nuit, la 23e, la 25e, 27e, 29e. Comme ça, celui qui rate la 21e, il se rattrape la 23e, il se rattrape la 25e. Hein, parce que, vu nos conditions aujourd'hui, c'est pas évident de veiller toute la nuit. Le lendemain, on est à l'école, on travaille. Mais, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, on peut, par exemple, le samedi soir. Hein, demain soir, c'est la nuit du destin. Lundi soir, c'est aussi la nuit du destin. Mercredi soir, c'est la nuit du destin. Donc, Dieu nous donne plusieurs possibilités pour que chacun s'y retrouve. Il y a quelqu'un ?
Il y a quelqu'un, Inch'Allah. On va le prendre maintenant. Oui, allô ?
Salam
alaikum.
Salam alaikum. Donc, j'ai appelé pour donner la réponse à la question que vous avez posée.
Allez-y.
Il me semble que, je pense qu'une personne enceinte, une dame enceinte, c'est considéré comme une dame malade, une personne malade. Donc, il se doit de ne pas savoir maintenant et que, qu'il doit en contrepartie nourrir une personne pauvre, je pense.
Mm-hmm.
Donc, voilà. Donc, je ne suis pas sûr, je réponds vraiment d'après ce que j'ai cru entendre.
Bah, on va considérer que c'est une bonne réponse. Hein. Donc je rappelle la question quel est le devoir qui incombe à la femme enceinte et à celle qui allaite si elles n'ont pas jeûné tout ou partie de, du mois de Ramadan. Elles doivent contre chaque jour de Ramadan non jeûné nourrir un pauvre. Ouais. Hassan, tu es là pour confirmer
Oui, tant mieux pour le pauvre. Ça nous permettra de. Sachant qu'il y a une divergence entre les savants à propos de ce genre de questions, certains disent qu'elles doivent rattraper, d'autres disent qu'elles doivent rattraper et jeûner, et puis d'autres disent qu'elles doivent donner une compensation. Donc le top, l'idéal, c'est de faire les deux en même temps, c'est-à-dire de rattraper et de donner, comme ça tout le monde est gagnant dans l'histoire. La personne elle-même, puisqu'elle jeûne, et puis le pauvre, puisqu'il se nourrit. En tout cas, voilà que l'on fait compte pour votre appel et votre savoir aussi. Vous restez en antenne pour qu'on prenne vos coordonnées. Vous avez gagné un livre. Bonne lecture.
Exactement. Oui, donc apparemment la personne est en antenne en train de donner ses coordonnées à Abdel Qassem qui est au standard. Et c'est vrai qu'il est très pris. Voilà, on va.
Troisième question peut-être.
Peut-être, oui.
Hassan,
Le
temps, si tu cherches une question, moi j'ai une question à Hassan. C'est de savoir aussi pourquoi le prophète en lui-même il se retirait justement ces 10 derniers jours du mois du Ramadan. Quel était l'intérêt de ce retrait spirituel, pourtant qui était le meilleur des hommes, le number one, tout ce que tu veux, comme qualificatif qu'on peut donner, hein. Mais pourquoi il avait besoin d'une retraite spirituelle dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan?
Donc ça, c'est la deuxième particularité des 10 derniers jours. Il y a la nuit du destin, d'accord. Ne confondez pas avec la nuit du festin. Les gens pensent que cette nuit-là, éclater en bouffe au maximum. Mais les gens pensent que cette nuit-là, il suffit de faire un repas et de l'envoyer à la mosquée, on a fait notre devoir. En vérité, non. La femme n'a pas à faire de repas et l'envoyer à la mosquée. Qu'elle fasse un repas et qu'elle aille avec le repas à la mosquée, pour qu'elle prie à la mosquée, qu'elle adore Dieu. Hein, vous avez vu la différence. C'est très bien, hein, la générosité, donner à manger à un croyant, c'est très bien. Continuez, je ne vous dis pas de ne pas le faire, au contraire, faites-le. Votre intention est bonne, vous rapprochez des dieux. Mais accompagnez ce repas et allez à la mosquée. Je dis bien que les femmes aillent à la mosquée, je ne dis pas les hommes parce que les hommes y vont. Et je dis aux femmes d'aller à la mosquée parce que si elles restent chez elles, elles ne vont pas adorer Dieu toute la nuit. Elles ne vont pas prier toute la nuit. D'accord ?
Bien sûr.
Elles vont peut-être regarder la télé. Les nuits du Ramadan, c'est ça, ou tout simplement il faut dormir. Alors que cette nuit là bah, c'est une nuit particulière où il faut essayer de rester en veille le maximum de temps et être en adoration, les jeunes, les moins jeunes, les hommes et les femmes. Donc ça, c'est la nuit du destin. Maintenant tu soulèves une deuxième question qui est importante, c'est la retraite, ce qu'on appelle l'i'tikaf. Ils ont dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'effectivement les 10 derniers jours du Ramadan il se retirait, voire même il ordonnait à ses épouses, donc à sa famille aussi, de mettre les bouchées doubles, hein, à la fin du Ramadan, les derniers 100 mètres. Il faut profiter parce que ce sont des jours particuliers. Alors pourquoi cette retraite? Pour justement se couper du monde, se couper du monde. On a tous besoin de faire quoi? De faire son mea culpa. On a tous besoin de se remettre en question, et qu'une manière de se mettre en question, c'est d'oublier le reste, de se retrouver seul, hein, de se regarder dans un miroir pour parler à qui? Avec notre créateur, pour nous remettre en question. Il nous faut de la concentration. Le métro boulot dodo, la dunya comme on l'appelle, elle nous, c'est une drogue, elle nous endort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'enfermait dans la mosquée. Et ces femmes l'ont suivi d'ailleurs, subhanallah. Oui, c'était fait une tente dans la mosquée. Après, il a vu une deuxième, une troisième. Et on m'a dit, sont tes épouses, elles te suivent. Mais vous, comment l'homme il doit être un modèle, le mari doit être un modèle.
On va prendre une question, Hassan, en direct. Oui, allô.
Oui, bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Excusez-moi de vous déranger. En fait, je profite de cette émission pour pouvoir poser une question à l'imam.
Allez-y.
Voilà, c'est suite au décès de ma maman, Hassama, il y a maintenant un an. Donc, elle est décédée en période de Ramadan. Et le jour de son décès, on a interpellé en fait une mosquée pour demander de faire une prière pour maman. Et on nous a brutalement accroché au nez en nous disant on ne voyait pas que c'est Ramadan.
On vous a fait ça. Vous êtes sûr que vous avez téléphoné à une mosquée, c'était pas une discothèque ou c'était pas
un café? Non, on était à la mosquée, on a demandé si on était bien à la mosquée. On nous a répondu que oui et on a demandé justement. Parce que bon, on était gravement malade quand même et on nous a répondu ça. Donc, moi j'ai une question à poser, c'est où sont passées les sadakats par rapport à ça?
Où sont passées les sadakats?
Oui. Par rapport
Alors attendez, on va distinguer deux choses. Le fait que vous êtes tombé sur quelqu'un au bout du fil dans une mosquée, on ne va pas la citer, qui mériterait toutes nos critiques, quelqu'un d'inconscient, et ça arrive beaucoup, vous savez ça, dans les mosquées, oui. Le premier qui passe, il décroche le téléphone et on peut tomber sur tout et n'importe quoi.
Oui.
Donc je suis désolé hein, de ce qui s'est passé, et si la personne nous écoute aujourd'hui, elle ferait vite de demander pardon à Dieu et à vous-même. Quoi qu'il en soit, il ne faudra pas généraliser, hein. Il y a de bonnes gens dans de bonnes mosquées, et parfois dans des mosquées, on a n'importe quoi, n'importe qui. Oui. En ce qui concerne les bonnes actions que vous avez faites pour votre mère,
oui.
Ce que vous appelez les sadaqat, c'est ça?
Oui.
Ben, c'est votre intention qui compte. Si votre intention elle était de plaire à Dieu en plaisant votre mère, c'est de faire le bien pour que la réponse ait votre mère, n'ayez crainte. Dieu n'oublie rien, Dieu est au courant des intentions, et ce que vous avez remis entre les mains de Dieu n'est pas perdu. D'accord?
D'accord.
Et continuez à faire du bien pour votre mère. Maintenant, sachez à qui faire le bien, ne vous trompez pas. Et moi, je dis, je ne cesserai de dire que quand vous voulez nourrir un infamé, quand vous voulez aider une personne indigente, il ne faut pas aller à la mosquée. Les gens qui fréquentent les mosquées, Dieu merci, ont de quoi se nourrir. Ce ne sont pas des gens qui sont pauvres. Allez remettre vos biens, votre argent, à deux organisations humanitaires de confiance qui existent en France. Je vous dis de confiance parce que j'en fais partie et puis elles ont fait leur preuve, le Secours islamique.
Oui.
Ou si vous voulez que ça aille uniquement en Palestine, vous envoyez ça au CBSP. Donc les adresses sont le CBSP. Donc votre argent, en précisant, je veux que cet argent aille pour un puits, pour un orphelin, pour une mosquée, pour un hôpital, pour nourrir l'affamé, etc., etc. Vous avez une panoplie d'actes de charité avec l'intention que la récompense est votre mère et ça ira à votre mère, Inch'Allah, sans aucun doute. D'accord ? En tout cas, je salue en vous ce souci que vous avez d'honorer votre mère de son vivant et après sa mort. Si tous les enfants étaient comme vous, Allah, on n'aurait plus de problème dans nos familles. Le gros problème des familles aujourd'hui, c'est l'ingratitude des enfants à l'égard de leurs parents, de leurs vivants. Qu'est-ce que vous pensez alors de leur ingratitude après leur mort? Une fois qu'ils enterrent leurs parents, ils les oublient, ils se disputent au sujet de leurs biens. Il reste encore des gens comme vous qui ont souci de garder contact avec leurs parents de manière spirituelle et sentimentale après leur mort. Que Dieu vous bénisse, ma sœur.
Amen.
Je vous en prie. Salam alaikum.
Salam
un témoignage poignant parce qu'effectivement, j'en ai déjà entendu des vertes et des pas mûres, hein, des gens qui téléphonent à la mosquée, qui demandent de l'aide, et qu'est-ce qu'ils ont en retour? Ils ont des gens, je ne sais pas comment les qualifier, mais en tout cas, il ne faut pas se traiter non plus de mosquée.
Ils sont surtout aussi ils sont incompétents. Tu l'as bien souligné tout à l'heure en disant qu'effectivement les téléphones sont à la portée de tout le monde, malheureusement, et qu'effectivement les personnes qui ne sont pas accréditées peuvent à tout moment décrocher. Et effectivement, comme on a beaucoup de savants chez nous, donc peut-être que leur science leur
monter à la tête
complètement.
Alors, en tout cas, pas sur la bonne personne. On va continuer sur une autre question. Faisal,
une autre question, bien sûr. Question pour un musulman, comme tu dis, Abdelkader. Est-il vrai qu'il est nécessaire de s'acquitter de ses dettes de jeûne de Ramadan dès que cela devient possible, ou bien a-t-on le droit de s'en acquitter à notre convenance? Je peux répéter la question. Est-il vrai qu'il est nécessaire de s'acquitter de ses dettes de jeûne de Ramadan dès que cela devient possible, ou bien a-t-on le droit de s'en acquitter à notre convenance?
Question pour un musulman. En contrepartie, un livre.
La connaissance et le savoir à travers ce livre, il y a bien un livre, c'est le prophète Mohammed Sallam. C'est au-delà des caricatures. C'est bien ça.
J'ai commencé à le lire et c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un enseignant de je ne sais plus quel bled, mais qui est de France, qui a répondu comme Ali nous l'avait bien un peu exposé. Hein. Il a défendu l'islam sans critique en vous répondant ce qu'était le prophète Sallam. Et l'un des très beau. Donc j'ai dit à Essence, regardez comme ça,
on a une personne dans l'antenne, on va la prendre. Oui, allô. Allô. Alaykoum salam. Alors, comment tu t'appelles?
Je m'appelle Amel.
Ah tiens, je connais cette voix.
D'accord, mais tu as quel âge?
Amel Farik.
Ah, d'accord, on connaît.
Et tu as quel âge, Ahmed?
9 ans.
Mashallah.
Vas-y, Ahmed, alors donne la réponse.
Amel.
Moi, je connais pas.
C'est un témoignage. Je pense que c'est un témoignage. C'est pour un bonjour. C'est bien ça, Amel?
Oui.
Ah, bah, on t'écoute. Alors, tu veux dire bonjour à qui?
À tout le monde.
Ah, bah, c'est gentil.
C'est gentil.
Alors vas-y.
Je veux passer à salam à mon père.
Ouais, c'est gentil.
C'est sale.
D'accord, on le connaît,
on l'a déjà rencontré.
C'est vrai, moi aussi j'ai déjà. C'est un bon gars quand même.
Je confirme.
Et qui encore? Tu veux dire salam à qui?
Hassan et
Kissen. Ah, ça, on connaît Hassan et Kissen.
Soit que Rachid et Abdelkader, vous. Je ne sais pas encore. En tout cas, Amel, je te remercie pour ton appel. Et puis,
Non, c'est pas fini.
Ah, c'est pas fini. Alors, vas-y.
Allez. Alors, on écoute parce qu'il y a encore des personnes au standard qui attendent, effectivement.
Alors, vas-y, Amel, dépêche-toi, dis ce que tu as à dire et on va passer à une autre personne qui attend au standard.
Merci. Est-ce que je peux faire le ramadan? J'ai 9 ans.
Ah,
bonne question.
Très bonne question. Alors, tu peux faire le ramadan. Et si tu fais le ramadan, tu auras la récompense. Et tes parents aussi auront la récompense. C'est un cadeau que tu fais à tes parents si tu fais le ramadan. Parce que Allah va récompenser tes parents parce qu'ils t'ont bien éduqué. Puisque tu demandes aujourd'hui à faire le ramadan. Donc, c'est très bien. Maintenant, si tu sens que c'est trop difficile vers 2h de l'après-midi, 4h, et tu sens vraiment que tu peux plus, tu peux arrêter et tu recommences le lendemain jusqu'à ce que tu réussisses une journée.
Voilà.
D'accord.
Pour la réponse, on va prendre une personne à la question qui a été posée juste avant. Oui, allô?
Allô? Ouais, salam alaikum. Déjà, bravo pour tout ce que vous faites sur Radio Pastel. Vraiment, c'est un mois de Ramadan. Tous les mois de Ramadan, je veux dire, c'est alhamdoulilah, on apprend beaucoup de choses. Et voilà quoi.
Merci.
Pour la réponse à votre question, je pense que, à mon avis, les dettes, si on a de l'argent pour les rembourser, autant qu'on les rembourse au plus tôt, non?
Oui, tout à fait. Mais la question ne parle pas des dettes financières. La question fait allusion aux dettes du Ramadan, c'est-à-dire une femme qui n'a pas pu jeûner pendant le mois de Ramadan parce qu'elle était indisposée. Après le Ramadan, est-ce qu'elle doit rattraper son jeûne tout de suite après le Ramadan,
ou bien elle peut attendre 2, 3, 4, 5, 6 mois jusqu'au ramadan suivant.
Ah ouais, je dirais qu'elle, je crois qu'elle a un petit peu de temps quand même, 2, 3 mois, je crois à peu près.
Elle a un petit peu de temps, effectivement. Bravo. Et un petit peu de temps, ça veut dire jusque le ramadan suivant. D'accord. Tu as gagné un livre. Tu raccroches pas, comme ça on va prendre tes coordonnées, Inch'Allah.
D'accord.
Ayaka, un grand plaisir. Merci.
Merci, merci.
Voilà, Marc Lafic pour la participation et la réponse. Oui, bon, on va prendre. Il y a une question. On va prendre une question, c'est vrai qu'on privilégie direct. On va prendre une.
Bienvenue.
Et cette fois, c'est d'un auditeur, une auditrice. Oui, allô. Allô.
Oui, bonsoir.
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 Donc, moi, je souhaite poser une question. Il s'agit de mon frère qui est handicapé. Oui. Et donc, de ce fait, il ne fait pas le ramadan. Donc, j'aimerais savoir si on doit donner une zakat sur le nombre de jours non faits ou pas.
Alors, quel est son handicap? Est-ce que c'est un handicap moteur?
Mental.
Mental. Donc, si c'est un handicap mental, il n'est pas tenu de jeûner. Car oui, seuls les gens qui sont conscients sont tenus de pratiquer la religion. Celui qui n'a pas toutes ses facultés mentales n'est pas tenu de jeûner. Donc vous n'avez pas de zakat à verser. Mais si vous versez pendant le mois de ramadan de quoi nourrir un jeûneur, c'est à votre honneur.
D'accord. Oui, très bien. Et sur zakat al-fitr, on doit lui donner quand même sa participation?
Tout à fait. Ça, la zakat al-fitr, elle s'impose à tous les membres de la famille, quel que soit leur âge, quel que soit leur état de santé, quelle que soit leur pratique.
D'accord.
Il y a aussi, il paraîtrait que même si la femme est enceinte, elle sort aussi pour l'enfant.
Non, il faut qu'il soit né
avant
l'Aïd.
D'accord.
S'il est né 5 minutes avant l'Aïd, elle donne la zakat pour cet enfant. S'il est né 5 minutes après l'Aïd, elle ne donne pas. Mais comme on est généreux, on donne pour l'enfant qui n'est pas encore né, l'enfant qui va naître dans 2 ans. Les pauvres aujourd'hui sont tellement dans la nécessité qu'il ne faut pas compter en vérité. Maintenant, il ne faut pas compter. Il faut donner. D'accord.
Donc, voilà.
Avec l'offre et que ma soeur.
Et avec
chacun. Quel coup de réponse?
Je vous en prie.
Bonne continuation, salam
alaikum. Salam alaikum. Donc voilà, on nous dit qu'on a la. Oui, allô?
Non, c'est
oui. Donc, on va prendre une question, Inch'Allah. On va prendre une question maintenant.
Bah, c'est ça.
Non. On a déjà eu la réponse.
Il faut se faire
assez, hein. Parce que c'était au standard. Donc,
Alors, doit-on jeûner pendant le renouvellement du jeûne de Ramadan ou bien peut-on espacer les jours où on recommence?
D'accord.
Donc,
la dette, c'est
le jour
qui
nous paye. Faut-il
jeûner un jour ou un jour ça.
D'accord, donc 023900, vous déposez, je regarde le standard et déjà en train de sonner, ben on va prendre une personne.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez de poser une question là.
Ah oui,
tout à fait.
À savoir si on doit rendre
ces jours d'affilée ou on les espace.
Ça doit être d'affilée.
Ça doit être d'affilée.
Oui.
Vous êtes sûr?
Certaine.
Sur quoi vous basez pour dire ça?
Ce sont mes parents qui me l'ont dit.
D'accord. Bien. Que Dieu vous protège, en tout cas continuez à écouter vos parents, continuez à respecter vos parents, mais sachez que sur ce point, vos parents n'ont pas tout à fait raison.
Ah.
D'accord, donc vous rattrapez vos jours à votre convenance.
Ah bon?
C'est une question de souplesse.
Excusez-moi monsieur, il y en a qui font le ramadan bien avant le mois du ramadan,
oui.
Il y en a qui rattrapent leurs jours, enfin les femmes plus ou moins.
Oui. Les amis,
juste après même après le ramadan, hein.
Oui. Oui, il n'y a pas de problème.
Voilà.
Non, mais.
Et tout à l'heure, j'ai entendu la jeune fille, là, ça m'a vraiment.
Ça vous a touché.
C'était un témoignage poignant.
Tout à fait.
Avec Sadaqa, là.
Oui.
Et vous disiez que il fallait être reconnaissant envers ses parents, il fallait pas être ingrat.
Tout à fait.
Et pourtant, bah, parfois, il y a des parents qui sont ingrats envers leurs enfants, vous voyez?
Ça existe, vous avez
ça
raison.
Ça existe aussi, hein.
Mais ça ne doit pas nous empêcher, nous, en tant qu'enfants, de leur vouer du respect.
Ah, bien sûr, oui.
D'accord?
Oui.
Et on obéit à nos parents tant qu'ils ne nous demandent pas de désobéir à Dieu. Et on les sert dans la mesure de nos capacités, parce que nos parents resteront nos parents, et on ne peut pas
jusqu'à changer. Oui.
D'accord. On va tous devenir parents.
L'éternité, on va dire. Hein.
L'éternité.
L'éternité. Parce D'accord. que moi, oui. voyez-vous, bon, j'ai une éducation avec les femmes et tout ça. Oui. Bon, je suis moi-même maman de deux filles.
Oui.
Bon, j'ai ma fille aînée qui fait le ramadan.
Oui.
La deuxième, elle a 10 ans, donc je lui fais faire le mercredi et le week-end parce que...
C'est bien.
Elle a connu avant, hein.
Oui, c'est bien.
Mais elle, elle est en demande, voyez-vous.
Mashallah. Mashallah. Plus de volonté, plus de...
Voilà.
C'est le temps que c'est qui demande.
Ah oui, oui, je l'oblige pas. Même elle, c'est toujours
elle. Mashallah. Que de vous l'entendre.
Donc on va poser notre question. C'est vrai qu'il y a des personnes qui veulent répondre, mais comme la personne a répondu là maintenant et qu'elle n'a pas donné la bonne réponse, n'importe comment, la bonne réponse, on la connaît maintenant. Donc effectivement,
toi
tu l'as
donné. Et bien moi je l'ai donné.
Voilà. Donc non.
Alors on a gagné et on passe à une autre question.
Alors là sur la vie du prophète, on va sallallahu alayhi wa sallam, quel est le nom de la mère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam?
C'est magnifique. Mais pour compliquer la question, laquelle de ses mères?
Effectivement.
Sa mère biologique.
Sa mère biologique. Pas celle
d'Abdi.
D'accord. Donc sa mère biologique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Magnifique. En attendant, donc on disait pour les atikaf, essayer de se donner des moments. Pendant ces 10 derniers jours, celui qui est capable de faire une retraite 10 jours d'affilée, 10 nuits, c'est magnifique. Celui qui n'est pas capable, il devra fonctionner de ce qu'il peut. Mais en tout cas, s'il se retire pour se remettre en question, ben Dieu, loin du souci, des tracas de la vie, c'est un remède extraordinaire. Troisième point, dans ces 10 derniers jours, c'est la zakat al-fitr. On le dit, on le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui ont oublié. Elle doit être versée à qui de droit avant la prière de l'Aïd. Et Allah ibarak fikoum, ensuite tu l'as rappelé tout à l'heure, je suis entendu, n'attendez pas les 5 minutes qui précèdent la prière de l'Aïd. Un, vous prenez la tête aux responsables des mosquées, les pauvres, qui doivent s'activer pour la distribuer, et parfois ils sont tellement pris de court qu'ils la remettent par erreur ou par empressement à des gens qui ne la méritent pas tellement. D'accord ? Donc, s'il vous plaît, donnez, versez votre zakat dès aujourd'hui. Il fallait peut-être le faire hier. On vous a donné les coordonnées du Secours islamique, du CBSP. Si vous connaissez des gens dans votre entourage qui sont dans le besoin, je dis bien qu'ils sont dans le besoin.
Oui,
n'allez pas donner votre zakat à quelqu'un qui a 3 téléphones portables, 3 abonnements, plus Internet. Non, celui qui est dans le besoin, c'est celui qui est dans le besoin. Point à la ligne.
C'est pas celui qui n'a pas de quoi manger.
Qui veut améliorer son train-train de vie. Donc ça, c'est la zakat al-fitr. Et le mieux, le top, l'idéal, c'est de la verser, non pas en nature, mais en argent. Car ce que vous donnez à quelqu'un qui est dans le besoin 10 kilos de dattes, il ne fait pas l'aide avec 10 kilos de dattes. Ça, c'est moi qui vous le dis. Hein. Au contraire, pour lui, c'est un souci, puisqu'il faut qu'il fasse tout pour qu'il les conserve. Ça m'étonnerait qu'il puisse les conserver. Et tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va les distribuer à son entourage. Donc donnez-lui de quoi vraiment jouir le jour de l'aide. Et je pense qu'il est le mieux placé pour savoir ce dont il a besoin. Ouais, le jour de l'aide. Il est le mieux placé. Peut-être vous pensez qu'il a besoin de riz, alors que lui, du riz, il en mange tous les jours. Vous lui donnez du riz, vous l'achetez le jour de l'aide. Ouais. Par contre, si vous lui donnez 50 euros et il achète avec des steaks qu'il n'a pas mangé depuis 3 mois, là, vous lui faites plaisir. Donc la nécessité du pauvre, c'est pas vous qui l'a décidé, c'est plutôt le pauvre. Vous allez dire, oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donnez, donnez. Ben oui, mais le prophète, il parle à une société, à des gens qui sont dans des besoins. Si au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens avaient besoin de farine parce qu'ils ne mangeaient pas du khoubz à base de farine, c'est parce que les conditions étaient telles qu'il n'y avait pas. Et pour eux, c'était le top, justement, d'avoir de la farine le jour de l'Aïd, ou d'avoir vu les cahiers le jour de l'Aïd. Si lui, subhanallah, toute l'année il mange que du riz, tu lui donnes du riz, ça n'a aucun sens.
Donc, on va prendre un auditeur, une auditrice pour la réponse à la question. Quel est le prénom de Rasulallah? Oui, allô?
Allô?
Oui?
Oui, c'est Amina.
Ah oui, mais des Amina, il y en avait beaucoup à l'époque. Eh oui. Alors, Amina comment?
Amina bint Wahb.
Ah, ça c'est ça. Et sa grand-mère, Amina bint Wahb bint.
Oui.
Après, continuez.
C'est déjà bien,
c'est top, même c'est super parce que même moi je suis incapable de continuer. Je voulais apprendre de votre bouche, mais bon,
là. C'était question pour un master. Là.
Un champion, là. En tout cas, dans laquelle on commence. Félicitations, ouais. Vous avez gagné un très bon livre. Vous l'avez comme ça, vous donnez votre nom.
Et je voulais poser une question.
Allez-y.
Elle est très pertinente.
J'espère.
Voilà, ça fait presque 10 minutes. Mon mari, il m'a
Il est où votre mari?
Il est à la maison.
Ils vont ensemble?
Oui. C'est presque 2 ans qu'ils partagent.
Ils vivent toujours ensemble
dans la maison, mais...
Oui, j'ai compris.
Oui.
Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est de demander à votre mari, est-ce que, quand il a prononcé cette parole, il est en état de colère ou non?
Non, il n'était pas en état de colère.
C'est suite à quoi? À une dispute? C'est suite à une...
Non.
Je
lui ai demandé pourquoi il était...
Quand il a fait ça, il vous l'a dit d'un trait. Il vous a dit...
Oui, trois fois.
Khlas.
C'est bon. Après,
ça compte que pour une fois.
Attendez la suite. Oui. Et après, il est parti en Algérie, il a demandé le divorce.
Oui.
Il a demandé le divorce, il a déposé son divorce là-bas. Donc on n'est pas encore passé en divorce là-bas. Et là, qui est un ban, bon, je lui fais à manger. Et j'ai peur que haram, que je lui fais à manger.
Non, c'est pas ça qu'il faut pas avoir peur du fait que vous lui faites à manger. Oui. Le problème, c'est que c'est soit votre mari ou soit c'est pas votre mari. Si c'est pas votre mari, vous ne devez plus vous retrouver seul avec lui. Attendez, je vais vous donner une explication.
Oui.
En ce qui concerne le fait qu'il vous ait dit 3 fois tu n'es plus ma femme, ça compte que pour une fois. On est d'accord?
Oui.
Classe. Deuxièmement, il a demandé le divorce.
Oui.
Ok.
Il est parti, on a vu.
Est-ce que aujourd'hui, il veut toujours continuer cette démarche?
De toute façon, normalement, ça va passer cette semaine.
Donc, pour lui, il n'y a pas de réconciliation avec vous?
Je ne pense pas.
Et de votre côté non plus? Si, vous cherchez à vous réconcilier avec lui.
Oui, mais ses conditions...
Comment?
Il m'a dit de toute façon, si on se réconcilie, tu restes sur ton côté et moi sur mon côté.
Alors, c'est ce que vous faites, réconciliez-vous. D'accord? Réconciliez-vous, faites la paix, il reste sur son côté, vous restez sur votre côté, et avec le temps, les deux côtés vont se rapprocher, Inch'Allah. D'accord? Vous avez des enfants.
Oui.
Donc, réconciliez-vous, trouvez un terrain d'entente, faites des concessions, ok? Car il vaut mieux que vous retourniez chez votre mari, il retourne chez vous, que de rester en guerre ou séparés. Donc, trouvez Inch'Allah, Binnati Yahsen, c'est le ramadan, profitez-en avant que les autres soient déchaînés.
Oui.
Hein, ils vont encore s'immiscer entre vous et essayer de vous empoisonner la vie.
Oui.
Qu'il arrête sa procédure de divorce au bled. Vous êtes toujours son épouse, il est toujours votre époux. Oui. Même si ça va être difficile de revenir tout de suite dans un état normal, laissez le temps au temps de régler votre problème.
Oui.
D'accord?
Oui.
Voilà. Et si...
Il y a des gens qui m'ont dit, bon, haram, parce qu'il n'est plus votre mari.
Parlez plus fort, ils vous ont dit?
Ils m'ont dit que c'est haram parce qu'il n'est plus votre mari, vous lui faites à manger.
Ils vous ont dit que c'est haram de lui faire à manger?
Oui.
Mais le problème, c'est pas de lui faire à manger ou de ne pas lui faire à manger. Oui. Le problème, est-ce que c'est votre mari ou non? Si c'est votre mari, il n'y a plus d'obstacle entre lui et vous. Si c'est pas votre mari, vous n'avez plus le droit de rester ensemble.
Oui, mais
si c'est Armadi Yatala, c'est Marc Gani, c'est Rami. Non. Comme je disais, c'est Rami. Et là, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as
dit que tu as dit que
tu as dit que
tu
as dit que tu D'accord. Et s'il est en état de colère, ça compte 0. Ce qu'il faut penser, c'est comment faire la paix. Le passé, vous l'oubliez. Il n'existe plus. Ouais. Posez pas des questions à n'importe qui, car les gens ils vont vous séparer de votre mari. Deuxièmement, ne cherchez pas à remuer le couteau dans la plaie. Cherchez plutôt à arranger les choses. Et la plus manière d'arranger les choses, c'est de faire la paix. Et la paix, ben, on s'assoit autour d'une table et on fait des concessions. Chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Non, pas le vin, le café ou le thé.
Allez. 22h58, on arrive au terme de l'émission. Peut-être Hassan, si vous conclure.
Donc, je voulais conclure. Vous êtes capable et vous allez tout faire pour y aller. Allez faire la prière à l'île Grand Palais. D'accord. Et que toutes les mosquées soient fermées pour que tous les gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer et de se voir puissent voir ce jour-là, qu'il y ait un échange, mais aussi qu'il y ait une manifestation grandiose et publique des musulmans, parce qu'il se peut que si on est 30 000 cela, il y aura beaucoup plus de probabilité à ce qu'il y ait un de ces 30 000 qui soit un saint homme, une sainte femme, et que grâce à cette personne, la miséricorde de Dieu nous englobe. Vous voyez, plus on est nombreux, plus il y a de chances à ce que la rahma nous touche. Moins on est nombreux, si on est 300, les 300 touristes. Il n'y a pas de rahma qui descend. Si on est 301, grâce à ce 1, le 301e croyant, la rahma va nous toucher. فَإِنَّهُمْ الْجُلَسَا لَا يَشْقِي جَلِسُهُمْ dit le hadith. Ouais, le hadith il dit que ce sont ces gens qui sont ici, avec Dieu, et il y en a un parmi eux qui est un bon pour ça. D'accord ? Alors, peut-on alors qu'il y a parmi les hadiths dit, mais lui il sera sauvé grâce à la bénédiction de la majorité. Donc il faut toujours voir la chose sous cet angle. Ouais, il y aura beaucoup plus d'anges, donc il y aura beaucoup plus de rahma, il y aura plus de baraka. Et surtout pas, Allah est bakfikoum, le jour de l'Aïd, de division, de dispute, d'apprendre. Est quelque chose pour nous qui est révolu. Nous sommes des musulmans français, des Français musulmans, et nous vivons en France. On ne va pas nier nos origines, ni les oublier, mais elles n'auront pas plus d'importance que notre foi, que notre religion. On est tous des frères, d'accord ? Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, parce qu'il aurait une origine ou une nationalité supérieure. Il n'y a que la piété qui nous différencie. La piété, c'est quelque chose de privé, d'intime, qui se trouve dans le cœur de la personne et on ne peut pas y accéder. Ainsi, on ne juge pas les gens en fonction des apparences, mais nous devons rester solidaires et rester...
Donc, pas de polémique, Inch'Allah, sur le jour de l'Aïd, donc vendredi ou samedi.
J'ai une dernière petite info, j'avais complètement, je l'ai zappé, mais l'Aïd, on distribue des cadeaux pour les enfants, Inch'Allah.
Pour ceux qui prient dans les mosquées, organiser, beaucoup de gens, subhanallah, pensent que juste près de la rigule. Ouais, et d'autres choses qui suivent. Hein, il doit y avoir de l'hospitalité, il doit y avoir des échanges, il doit y avoir ce que tu vas dire, Rachid, qui est fondamental, c'est-à-dire nos enfants avec qui nous allons aller à la mosquée, ils doivent sentir que ce jour-là, c'est un jour différent. Quand ils vont à la mosquée, ils reviennent avec un cadeau. Les parents leur font des cadeaux, mais on leur parlera, Inch'Allah, la semaine
prochaine. Donc, quoi qu'il en soit, on rappelle les émissions lundi, mercredi.
Je pense que lundi le 8, il y a l'imam donc de Feder qui vient pour un petit dar sur le Laylatul Qadr. Inch'Allah. On va aussi pour faire les dons comme d'habitude dans la mosquée, Inch'Allah.
Ok, donc.
Sans doute l'émission vendredi prochain. Ce n'est pas l'Aïd vendredi.
Tout à fait. Bien sûr.
Si c'est l'Aïd vendredi, on fait une pause Aïd.
Inch'Allah.
On se revoit le vendredi d'après.
Une pause Aïd pour vous, parce que nous, Inch'Allah, Mosquée Abou Bakr, nous faisons. Donc si c'est vendredi, on fait Salatul Aïd de la mosquée en direct avec Pastel FM et on continue à refouler le Jumu'ah aussi sur Pastel FM.
Inch'Allah.
Donc nous, on est Pastel FM vendredi sur même si c'est pas
vendredi. Donc voilà. Donc assalamu alaikum, on se revoit. Inch'Allah.